I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tales of Arise, Ghost of Tsushima, Legends et d'autres jeux et toute l'actu du jeu vidéo, c'est dans le rendez-vous jeu maintenant tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu où on vous raconte, on vous conte toute l'actualité du jeu vidéo. On va donc vous parler des jeux du moment et notamment Tales of Arise qui est l'un des JRPG qui fait le plus de bruit depuis un bon moment. Il y aura aussi Ghost of Tsushima Legends. Également peut-être un petit mot sur Fist, un jeu qui est passable mais qui est peut-être intéressant à discuter. Puis on aura aussi peut-être qu'on va faire comme parfois les prédictions pour une showcase qui va avoir lieu ce soir, donc quelques heures après l'enregistrement de cette émission. On passera ça en revue rapidement et puis quelques autres petits sujets intéressants. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir, comme tous les mois, Maïté Escarina. Comment ça va, Maïté ?
Salut, ça va super Patrick, je te remercie et je tiens aussi à remercier tes auditeurs qui n'ont pas vendu la mèche concernant la surprise de la PS5, mais je t'avoue que franchement ça valait, j'aurais dû filmer en fait parce que je l'avais salement emballé dans du papier à palette, tu vois le papier noir tout moche et il y avait juste un bout qui dépassait où on voyait que c'était un matériel électronique et en fait il a tout de suite compris que c'était la PS5 et il a eu des yeux énormes. Il me dit mais comment t'as fait? Et alors là j'ai été son héroïne mais je pense je vais pouvoir lui demander des services très très longtemps. Donc je suis très contente parce que c'est une super console je trouve. Enfin voilà, on aura l'occasion d'en reparler mais oui, écoute sa réaction était à la hauteur du périple que j'ai vécu pour me la procurer. Donc
tu nous en diras. Je suis en train de m'imaginer un scénar, tu sais, comme le magasin de jouets là avec Schwarzenegger. Je sais pas si vous vous souvenez de ce vieux film.
Mais on est assez vieux pour s'en souvenir.
J'imagine que tu es en train de tabasser les gens pour récupérer ta PS5 dans les magasins. Ah, incroyable.
C'est limite là qu'il faut en arriver. Hein, c'est compliqué.
Écoute, tu nous raconteras tout ça dans un moment et la voix ASMR worthy que vous avez entendue il y a une seconde, c'est celle de Benoît alias Exerve qui nous rejoint également. Bonjour Benoît, comment vas-tu ?
Salut, bonjour tout le monde.
ASMR, ouais.
J'ai pas un micro spécial ASMR, du coup je fais semblant que je gratte des trucs. Mais voilà.
Oui, bonjour un épisode sur deux maintenant, on fait une blague sur l'ASMR et je ressors généralement, tu sais, juste un morceau de papier, tu fais comme ça. Comme ça, voilà, ça marche très bien. Ouais. Ça va, t'es en forme ? Tu es aux anges, je crois, encore, pas encore redescendu de ton expérience avec Tales of Arise que tu as beaucoup aimé.
Ouais, c'est ça. Bah écoute, j'ai mon jeu de l'année, moi, donc je suis peinard.
Ça y est,
vous pouvez envoyer le reste. Hein. Voilà, ouais. 2021, c'était sympa.
On va en parler dans un moment. Avant ça, bien sûr, je voudrais remercier les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous jeu sur patreon.com/rdvjeu. Aujourd'hui, c'est Simon L, Timothée Després, Maxime Frimas et le producteur Claude Girel, qui est le producteur de cet épisode. Les producteurs, c'est ceux qu'on remercie chaque mois. Mais notre cœur s'ouvre grand pour remercier tous ceux qui permettent de financer cette émission sur Patreon. Je vous en redirai un petit mot dans un moment. Mais je vous envoie une grosse bise à tous et j'espère que les auditeurs remercient Simon, Timothée, Maxime et Claude, bah parce que sans eux, peut-être que l'émission n'existerait plus. Et je dis ça, vu à quel point je suis occupé et les choix que je dois faire en ce moment, c'est même pas de l'hyperbole. Bon, un autre mot aussi pour dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire normalement un after show et j'aimerais qu'on parle de l'expérience de joueur dont vous êtes le plus fier. L'after After Show, c'est la partie un petit peu bonus pour les Patriotes, justement. Et on la fera après l'enregistrement de l'épisode classique. Et la question aujourd'hui, c'est quelle est l'expérience de joueur dont vous êtes le plus fier ? Merci à Xur qui nous a suggéré cette idée. Je trouve que c'est une idée marrante. Donc, si vous êtes Patriote niveau 2, vous pourrez participer à ce petit after show. Et je suis sûr qu'on aura des choses intéressantes à discuter. Alors, notre premier gros sujet, notre sujet, j'ai envie de dire presque unique, j'exagère, mais à peine, c'est Tales of Arise, le nouveau jeu de la série Tales of, qui est quand même un morceau, j'ai envie de dire un gros morceau de du JRPG, mais c'est presque, c'est un gros morceau, mais c'est pas un aussi gros morceau que d'autres gros morceau de cette catégorie. On n'est pas au niveau d'un Final Fantasy ou d'un même Dragon Quest au Japon, ou même, j'irais même jusqu'à dire, en Occident, je crois qu'elle est moins connue, cette série, que des trucs comme Persona, par exemple, ou même Yakuza, plus récemment. Et pourtant, c'est une série qui est très vénérable et qui a une particularité, puisqu'elle est vraiment une série JRPG, mais également d'action dans les combats. C'est pas du tour par tour, c'est de l'action. Et bref, bon, j'en dis quelques mots, mais je crois qu'on pourra laisser parler Benoît, puisque j'ai appris cet été avec ta première preview que t'étais un grand fan de la série depuis longtemps, et que je vais te laisser du coup nous parler un petit peu de Tales of Arise, sur lequel j'ai beaucoup de questions, et sur la série en général j'ai beaucoup de questions parce qu'elle m'intrigue, mais que je la connais assez peu finalement. Dis-nous, qu'est-ce que c'est que Tales of Arise, et peut-être en remettant un peu de contexte sur la série en général.
Ouais, écoute, ça tombe bien parce qu'en plus, comme j'ai enregistré mon test il y a quelques jours, je pense que j'ai encore le script de ma vidéo en tête à quelques mots près. T'aurais pu me laisser les sous-titres, tu sais, sur Twitch, comme ça j'aurais pu lire.
Je peux te les remettre si tu veux. Hein.
Non, mais j'étais content parce que c'est pratique de pouvoir mettre les sous-titres maintenant. Bref, ouais, donc Tales of, en fait, donc c'est une série qui a 25 ans. Si je dis pas de bêtises, ça a commencé en 95, un truc comme ça. Ça date de la SNES, ça devait être Tales of Phantasia, le tout premier. Ouais. C'est une série qui avait fait assez rapidement parler d'elle parce qu'en fait le caractère designer historiquement c'était l'artiste qui dessinait les mangas Oh My Goddess, que tu dois connaître toi. Oui. J'ai oublié son nom là tout de suite maintenant, mais bon voilà, il a un trait très reconnaissable et pendant longtemps son style était associé au Tales of et en fait Tales of, c'est vrai que ça, c'est surtout connu au Japon, ça a eu percé en fait en Occident grâce à Tales of Symphonia. Comme le disait tout à l'heure SK, c'est vrai que cet épisode sur GameCube a vraiment bien fonctionné, peut-être plus en termes de succès d'estime qu'autre chose. Et l'autre moment où je pense que ça a bien marché, c'était Tales of Vesperia. Ça faisait partie des rares moments où, c'était l'époque où Microsoft cherchait à faire des jeux et pas des manettes. Et du coup, ils avaient donné plein d'argent à des studios Jap pour avoir des exclus, et ils avaient notamment Tales of Vesperia qui pour moi était jusqu'à il y a quelques jours le meilleur épisode de la série, quoi.
C'est d'ailleurs Tales of Vesperia, je vais raconter une toute petite anecdote. Cet été, quand j'étais au milieu des couches et de la, j'allais dire du désespoir, ce qui est un petit peu sévère, mais de la complication d'avoir deux enfants, j'ai vu une vidéo où tu parlais de tes premières expériences en preview avec justement Tales of Arise, et ça m'a donné très envie d'aller découvrir la série. Et du coup, j'ai acheté Tales of Vesperia sur PlayStation et sur Switch, parce que j'en étais. Et en plus, il est disponible sur le Game Pass. Et je m'étais pas aperçu.
Ouais, il est ressorti surtout.
Il est ressorti surtout.
Il est ressorti surtout parce que c'est vrai que c'est devenu. En fait, c'est devenu l'épisode un peu favori parmi les fans, parce qu'en gros, il y avait pendant longtemps. Tu sais, c'est un peu comme ça fait partie de ces séries où tous les épisodes sont pas bons. C'est-à-dire que c'est souvent un peu, il y a une espèce de petite roulette. Donc il y a des épisodes complètement, tu peux oublier, d'autres qui sont quand même connus. Il y a Gracie's F qui est très connu, mais plus pour son système de combat, qui était vraiment, vraiment excellent quand il est sorti. L'histoire était assez dispensable, mais. Et Vesperia, en fait, c'était vraiment un épisode qui réussissait à mélanger un peu tout, quoi. Et comme c'était le tout début de cette. On va dire, du creux de la vague des JRPG, avec pas mal de monde qui était un peu dans une phase de nostalgie, ils revoulaient des vieux FF à l'ancienne. Tu sais, c'était l'époque de FF13, oui. Donc il y avait plein de gens déçus par l'orientation de Final Fantasy.
Je pense qu'il a bien fonctionné. Puis en plus, ils avaient bien twisté la narration. Parce que, en fait, Tales of, comme j'expliquais dans la vidéo, c'est un peu comme Dragon Quest. En fait, chaque jeu est assez proche des précédents. C'est-à-dire qu'ils partagent beaucoup de choses, beaucoup de thèmes, beaucoup d'histoires. C'est toujours un petit peu des histoires de deux peuples ennemis qui essayent de se rabibocher d'une manière ou d'une autre. Alors que Final Fantasy, ça se réinvente à chaque épisode. Donc le fait qu'il y ait une continuité comme ça dans les Tales of, ça fait que forcément, il y a des bons épisodes et il y a des moins bons épisodes, quoi.
Et du coup, un des éléments quand même assez notable de cette série, c'est l'aspect action qui dénote, je trouve, pas mal avec la plupart des autres JRPG. C'est vraiment les combats, c'est de l'action-action, quoi. C'est pas Enfin oui, c'est de l'action tout court, on est d'accord, je me trompe pas là-dessus.
Ouais, ça a toujours été le cas en plus. Hein. Tales of Phantasia sur Super NES, c'était déjà en 2D des espèces de petits combats où en fait... C'est pas de l'action pure, c'est-à-dire qu'on peut pas enchaîner les actions et les attaques comme on veut. On a quand même une limite, soit via de la magie, soit via des jauges, etc. Mais dans les faits, et surtout avec l'avènement de la 3D, c'est rapidement devenu un truc vraiment très impressionnant visuellement. Et là, avec Tales of Arise, ils sont encore allés un peu plus loin en rendant les contrôles peut-être un peu moins rigides. Parce qu'en fait, paradoxalement, quand on regarde un combat d'un Tales of, ça a l'air d'être bordélique à souhait, alors qu'en réalité, c'est très, très technique. Ça demande pas mal de maîtrise, de réussir à bien exploiter le système de jeu quand on essaye d'aller au bout de ce que propose le contenu. Mais visuellement, il y a toujours eu des petits soucis de lisibilité, et puis c'est toujours le cas avec Tales of Arise, on va pas se mentir. Mais ouais, c'est ça. Moi, je le compare à du Devil May Cry. Hein. C'est un peu la
carrément,
même idée
ouais.
qu'on retrouve là dans Tales of Arise.
C'est-à-dire qu'effectivement, on contrôle un personnage, je crois qu'on peut switcher d'ailleurs, peut-être pas pendant les combats, mais si, peut-être.
Si, quand on veut, ouais.
Et on contrôle donc un personnage à la fois, et on va aller vers les monstres et taper avec des coups d'épée, des sorts, ce genre de trucs. Donc c'est vraiment de l'action, même s'il y a cette limite de plus RPG-esque de mana, de cooldown, de ce genre de choses. Mais oui, donc ça, c'est assez différent. À vrai dire, je dis c'est assez différent, mais ça fait peut-être penser au dernier Final Fantasy, le 15 ou le 7 Remake. Peut-être que ça s'en approche quand même un petit peu.
Un peu l'idée, ouais.
J'aurais plus comparé à FF12, ouais. Dans la gestion de l'IA et avec le système de Gambit de FF12. Moi, c'était à ça que ça m'avait fait penser. Et d'ailleurs, c'était un petit peu ce qui me déplaisait. Je ne sais pas là comment ils s'en sortent, mais je trouve toujours un peu frustrant quand tu es en action RPG, que tu ne maîtrises qu'un seul personnage. Faut que l'IA soit vraiment bonne à côté parce que, tu sais, le cliché, c'est de dire que tu as toujours un perso qui va sucer tous ses MP en 30 secondes. Je ne sais pas trop comment ils s'en sortent là-dessus.
C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais en fait, t'as toujours des. Tu peux paramétrer les routines d'IA toi-même. Il y a des menus pour régler la stratégie et les comportements des gens. Donc, tu sais, tu peux. Du coup, ta comparaison avec les Gambits, elle est super pertinente parce qu'effectivement, tu vas mettre des règles. Tu vas dire en dessous de 50% de ta mana, tu arrêtes d'utiliser ta magie. Je veux pas le savoir, tu attends que ça remonte. Et tu peux déterminer des règles comme ça. Ce qui est très pratique parce que ça permet, par exemple, de forcer un soigneur à ce que la première chose qu'il fasse quand il rentre dans le combat, c'est de mettre un buff sur ton héros, comme ça t'es sûr qu'il te le met à chaque fois par exemple. Enfin, tu peux paramétrer si, comme je disais, c'est un jeu que tu peux vraiment prendre en mode détente, tu te mets en mode facile et tu martèles les touches, voire même tu peux passer en mode auto, c'est-à-dire que tu peux carrément désactiver ton contrôle et le jeu se fait à ta place. Et à l'inverse, tu peux essayer d'aller pousser très très loin parce que le jeu permet de vraiment affiner le contrôle que t'as sur ton équipe.
Ouais. Justement, on va revenir au combat spécifique sur Tales of Arise. Et juste pour préciser, c'est pas qu'on combat les ennemis sur la carte tout court, c'est que on a des monstres qu'on va rencontrer comme dans n'importe quel JRPG. Et quand on en croise un, quand on rentre dedans, bah ça va rentrer dans la zone de combat. Et au lieu d'être tour par tour, c'est en action. Giant FR nous dit, n'oublions pas le multijoueur également dans les Tales. On peut jouer à plusieurs, ça je ne le savais même pas.
Ouais. Avant on pouvait, ouais.
Bah, je me rappelle
là,
que c'était
plus le cas.
Pas dans celui-là. Ça a fait râler quelques personnes, parce que c'est vrai qu'il y avait des gens qui devaient y jouer. Symphonia, on pouvait y jouer à 4.
Ouais.
GameCube,
bah,
tu avais 4 ports manettes.
C'était une des raisons pour lesquelles j'avais acheté Symphonia, justement, c'est que c'était un jeu multi. Mais après, bon, j'en garde pas un excellent souvenir de jeu multi, quoi.
Ouais.
Mais...
En fait, je suis partagé sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, c'était pas très bien, mais c'était l'occasion de faire le jeu à plusieurs. Je pense que c'était des configurations où tu jouais avec tes frangins, frangines, avec ta femme, ton mari, tes gosses. Je pense qu'il y avait ces configurations-là, mais c'est vrai que si j'imagine qu'ils l'ont lâché pour celui-là, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que ça concernait finalement assez peu de gens. Parce qu'en fait, toi, tu jouais en exploration, c'était la personne qui tenait la manette une, mais en combat, chacun pouvait contrôler un petit personnage.
Je me rappelle que ça pose des problèmes de lisibilité parce que il y avait qu'un seul écran pour les deux joueurs. Du coup, ça dézoomait quand t'avais un joueur, quand les deux joueurs étaient aux extrémités des écrans, et au bout d'un moment, c'était plus très.
Ça pose des vrais problèmes de caméra. Hein. Tous ces systèmes là de couch co-op, c'est compliqué. Hein.
Et en l'occurrence, la lisibilité, elle n'est pas maximale, même avec un joueur ici. Donc, mais bon, parlons spécifiquement de Tales of Arise. On va spoiler, c'est, enfin non, pas spoiler le jeu, hein, mais spoiler la review. J'ai l'impression que toutes les impressions que j'en ai lues sont extrêmement positives. Alors, peut-être pas au niveau universel comparé à tous les jeux du monde, mais en tout cas, pour les JRPG, si vous appréciez ce genre de jeu, c'est vraiment le haut du panier. Et j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur ce qui fait que cet épisode est vraiment réussi, du coup.
Ben ouais, ça tient à pas mal de facteurs. C'est-à-dire qu'en gros, les JRPG, il y en a de moins en moins. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gros jeux à gros budget, aventures solo japonais, etc. C'est mine de rien, il reste quoi, Final Fantasy, Persona 5. Il y a eu Yakuza 7, mais c'était plus pour la blague qu'autre chose. Mais voilà, ça reste de plus en plus rare. Donc je pense qu'il y a tout un public qui a grandi avec ça, qui est en attente. Et comme le JRPG, dans les années 2005-2015 à peu près, il a vraiment pris une orientation très animation japonaise, avec les lolis, donc c'est-à-dire les petites filles en jupette, etc., etc. Moi, qui avais un peu vieilli, je me retrouvais plus du tout dans ces jeux-là. Et du coup, c'est vrai que j'étais un peu en attente d'un changement. Et Tales of Arise, rapidement, en fait, on s'est rendu compte que ça avait l'air d'être... Le Bandai avait envie de tourner la page, mais plutôt d'aller vers une nouvelle étape, de moderniser le truc. Ils ont changé de moteur. L'équipe a quasiment changé. C'est beaucoup de petits jeunes qui ont repris le flambeau des anciens. Ils ont revu pas mal de choses au niveau de l'écriture. Ils ont donné beaucoup plus de moyens sur la partie visuelle, sur la partie sonore. Et le résultat, c'est que ça fait très longtemps que j'avais pas eu, tu vois, un vrai grand JRPG où je me couche à pas d'heure et le lendemain, je me réveille et j'allume la console, quoi.
J'insiste sur ce point que tu soulèves. Il y a vraiment une intention de Bandai Namco de renouveler la série. Enfin, au-delà du fait de la renouveler, de lui donner une chance pour qu'elle aille plus loin que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il est assez probable que l'intention, c'est de la faire découvrir au reste du monde, la renouveler pour le public qui la connaît déjà, et puis l'amener dans un petit peu plus de modernité. Et puis, à la manière peut-être d'évoquer Persona ou Yakuza, qui ont connu une certaine notoriété ces dernières années chez un public occidental, chez qui ces jeux-là, ces séries étaient un petit peu plus niches, peut-être amener Tales of en tant que série au même type de notoriété et bien sûr de chiffres de vente pour ces publics-là. Donc ils ont vraiment mis les moyens, comme tu le dis, ils ont changé de moteur, tout plein de choses. Et le résultat, du coup, le pari a l'air vraiment réussi, quoi.
Ouais, pour moi, ouais, clairement, mais t'as raison, c'est-à-dire que c'est ça leur objectif. Ils ont une franchise qui est assez ancienne, qui a 25 ans. Ils savent qu'ils ont quand même une aura et qu'ils ont une communauté de gens qui aiment beaucoup. Mais voilà, ça faisait quand même pas mal d'épisodes qui tournaient un peu en rond. Ils avaient testé des trucs dans les derniers, que ce soit avec Berseria ou avec Zestiria. Mais au bout d'un moment, les Tales of... C'est vrai que depuis Graces et Vesperia, du coup, ça date maintenant un petit peu. Il n'y avait pas eu de coup d'éclat. En plus, ils avaient eu pas mal de petits... ça, c'est vraiment du détail, mais il y avait eu des polémiques justement pour Tales of Zestiria. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait des histoires avec des actrices qui avaient eu des harcèlements. C'était assez compliqué. Il y avait eu les deux épisodes qui s'appelaient Exilia 1 et Exilia 2 qui n'avaient pas du tout convaincu. C'est une série qui se cherchait tout simplement, tu vois, c'est comme ça arrive à certains moments, les Assassin's Creed par exemple, qui se sont fait un reboot avec Assassin's Creed Origins, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fondamentalement changé la formule. Non, soft reboot, moi je dirais.
Ouais.
Tu vois, à un moment j'avais écrit ça dans mon test, c'était Tales of Soft Reboot, quoi. C'est-à-dire qu'ils gardent l'essence de la série, ils vont garder ce qui en faisait quelque chose de bien et qui avait marqué les gens. Ils renforçaient ça, ils supprimaient le gras qui ne servait plus à rien ces dernières années et ils essayent de renforcer chacun des aspects pour revenir un peu aux sources du truc. Et là, là, ça marche vraiment bien dans Horizon parce que bah, on a, en fait, on a tout ce qui était bien dans les Tales of auparavant, avec en plus des nouvelles choses beaucoup plus modernes, beaucoup plus matures, qui manquaient à la série et qui devraient, je pense, lui permettre d'être beau, justement de toucher un public un peu plus jeune, peut-être un peu plus moderne aussi, qui a des attentes qui ne sont plus les histoires cuculapralines des années 90, quoi.
Ouais, et du coup, justement. Vas-y, Esca.
C'est typiquement ce genre de scénario qui me rebute pas mal sur les JRPG depuis une dizaine d'années. C'est que j'ai l'impression effectivement de toujours voir la même histoire et qu'en plus, c'est, je disais tout à l'heure, un peu gnangnan, mais c'est ça, un peu cucu la praline. Très naïf, en fait.
Ouais. Alors, ça garde un peu cette candeur parce que... ouais, bah, je vais en parler dans l'histoire, mais justement, ils arrivent en fait à bien mélanger les tons entre ce côté un peu naïf, candeur. C'est Puyo qui disait ça dans son test sur Gamekult, c'est un peu l'ambiance shonen, gambatté, fais de ton mieux, etc. Il y a toujours un peu ça, parce que bah, ça reste très inspiré par l'animation japonaise. Mais il y a des petits trucs en plus, il y a plein de petites subtilités, je vais essayer d'en parler sans trop spoiler.
Bah, vas-y, hein, lance-toi. Alors, on a entendu un petit peu partout, c'est cette histoire, comme souvent dans la série, entre deux nations, deux pays, enfin là, c'est deux planètes, et des personnages principaux qui sont opposés et complémentaires, avec l'une qui fait très très mal aux gens quand on la touche, et l'autre qui ne peut pas sentir la douleur. Donc, c'est un petit peu la comment dire, fate, la providence,
oui,
qui
les a réunis. Évidemment. Mais c'est ça, ouais. Donc, tu as deux planètes, en fait, qui sont vraiment en opposition. Il y en a une des deux, Rena, qui exploite les gens de l'autre, qui s'appelle Dana, depuis des siècles. Hein. Ils les ont tous réduits en esclavage. Hein. Et en fait, ils les exploitent pour récupérer... En fait, ils leur font faire des travaux forcés pour récupérer de l'énergie magique. C'est une espèce de mana qu'ils ont en eux. Et du coup, eux, ça leur permet de faire une espèce de tournoi où chaque seigneur de chaque région va se battre pour savoir qui c'est qui peut diriger le monde. Et donc nous, au milieu de tout ça, on va jouer Alphen, le type avec son masque que les gens peuvent voir s'ils sont sur Twitch, mais donc le protagoniste, qui lui, donc, sait pas qui il est, hein, vraiment, c'est le héros amnésique par excellence. Et en plus de ça, il peut
déjà,
pas ressentir
ça,
la
ça
douleur.
Ça me fait un peu peur quand même. Le héros amnésique, c'est...
En fait, alors, il faut savoir un truc, c'est que les clichés et les tropes, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire que je vais faire un parallèle un peu facile, mais 99% des chansons parlent d'amour. Ça veut pas dire que chansons sont nulles, tu vois, c'est comment tu vas en parler qui est intéressant. Et donc, ce qui est intéressant là avec Rise, c'est comment ils vont gérer le trope du héros amnésique, parce que ben, c'est le cas dans tous les jeux, tu vois.
Surtout F7, au Japon,
le héros amnésique. Non, en Occident aussi, hein, tu joues un héros amnésique dans tous les Elder Scrolls depuis la nuit des temps.
Oui, mais c'est quand même plus rare. Enfin bref, ouais, on va pas se... J'ai l'impression que la moitié des... D'accord. Notre premier désaccord sur cet épisode, je suis sûr que ça sera pas le dernier. Vas-y, continue.
Mais ouais, donc voilà, c'est comment ils vont gérer les tropes qui est intéressant. C'est pas forcément le côté cliché du truc, c'est pas forcément gravissime. Et donc voilà, il va rencontrer Shion, elle vient de Dana, donc elle est potentiellement leur ennemie, sauf qu'ils savent pas pourquoi elle a été faite prisonnière par ses collègues. Et il y a aussi cette histoire de malédiction qui fait qu'on peut pas la toucher, sinon il y a des espèces d'épines maléfiques qui sortent et qui te tuent à cause de la douleur, si tu restes trop longtemps en contact avec elle. Et ils vont se retrouver en fait à bosser avec la résistance locale pour renverser les différents seigneurs des différents pays et essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est le pitch de base. Là où ça devient vraiment très intéressant assez rapidement, c'est que le jeu va nous mettre face et va mettre face ses protagonistes face aux conséquences de leurs actes. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une optique de rébellion, de révolte, de guérilla, de révolution, donc des choses qui sont pas des sujets non plus qu'on voit tous les jours. Et en fait, on va voir ce qui se passe après. On va voir ce qui se passe une fois qu'on a détruit l'autorité en place, comment les gens, ils arrivent à survivre et à surmonter ça, comment les peuples hein, qui, du coup, étaient ennemis et montés les uns contre les autres vont réussir à cohabiter. Enfin, le jeu, à chaque fois, va rester dans cette logique de ben, il faut quand même qu'il y ait des conséquences à ce qu'ils font. Et ça, ben, ça donne beaucoup de... Je trouve que ça donne vraiment beaucoup de maturité à la narration qu'on n'a pas d'habitude souvent dans ces JRPG, parce que c'est souvent, ils ont sauvé le pays, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, quoi. Tu vois, c'est, ouais. C'est la fin.
Et justement, à propos d'histoire, ça comment dire, ça m'enthousiasme un peu que tu dises que ça va un petit peu plus loin que les prémices de l'histoire. Et j'avoue que souvent, sur les jeux japonais, moi, j'ai peur de ça. Et en ce moment, j'ai plus trop le temps de les faire. Donc, je ne sais pas si ça va plus loin, même si souvent, ça a l'air d'être le cas. Mais moi, mon expérience de Tales of Vesperia, donc, que j'avais acheté cet été, auquel j'ai joué quelques heures, c'était vraiment quelque chose de... au-delà du système de combat que j'ai trouvé un peu laborieux et qui marque peut-être son âge, le jeu en lui-même, comme dans Yakuza, c'est presque un visual novel. Il y a tellement de discussions, avec en plus les petites scénettes qui sont optionnelles, les petites discussions entre les membres de l'équipe qui sont fréquentes, mais optionnelles. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cinématiques, finalement. Et pour quelqu'un comme moi qui a peu de temps, j'ai malheureusement dû arrêter de jouer à Vesperia et j'ai eu l'impression en jouant à la démo de Arise que c'était possiblement un peu la même chose. Alors, ce n'est pas un reproche pour tout le monde, hein, c'est une question de temps disponible et ça, c'est différent pour chacun. Mais est-ce que tu me confirmes que c'est comme ça, très verbeux, très cinématique?
Alors, verbeux, non, mais par contre, c'est très bavard, ça, pas de problème. Oui. Mais par contre, la différence, par exemple, avec un Vesperia dont tu finis l'histoire en 60-70 heures, là, en 30 heures, tu peux finir Tales of Arise. Mmh. Donc, ils ont été un peu plus malins. Déjà, le jeu est beaucoup plus rythmé. Il n'y a pas cet énorme ventre mou qu'il y a dans quasiment tous les JRPG où à un moment, ils te lâchent dans des zones de pex et tu dois juste farmer et l'histoire, t'as l'impression qu'elle ralentit. Là, le jeu est bien rythmé, on est toujours poussé vers l'avant, il y a des retournements de situation régulièrement qui font qu'on est maintenu en haleine jusqu'au bout. Et tout le contenu annexe permet par contre d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire pour les gens qui ont du temps, qui veulent y passer plus de 100 heures si ça les amuse, il y a possibilité de le faire. Mais ils ont essayé justement de faire en sorte que le jeu soit plus facile à jouer quand on fait que le mode histoire, qu'on s'intéresse pas trop aux trucs annexes, mais par contre pour les fans, on va dire, qui ont l'habitude ou qui ont du temps, qui veulent chercher les trophées ou que sais-je, là il y a de quoi, il y a moyen quoi.
D'accord. Et du coup, cette période de zone de farm qui est effectivement quasiment un passage obligé dans certains JRPG, là tu l'as pas juste en suivant l'histoire principale, tu peux terminer le jeu sans... Après tu parlais de mode de difficulté aussi.
Ouais, en plus tu peux passer, il y a un mode de difficulté histoire qui fait que bah, en gros tu passes vraiment beaucoup plus facilement à travers les combats et tu profites de l'histoire. Si toi le système de combat c'est pas ça qui te motive à avancer, mais que tu as envie de connaître la suite, parce que les personnages sont cool, parce que les dialogues ils sont intéressants, et que justement, ces petites scénettes, moi, j'aimais bien. Moi, je sais qu'il y a des passages de l'histoire que j'ai passé en mode histoire, justement, je ne me suis pas pris la tête.
Hein. Donc, tu peux changer en cours de route.
Ouais, bien sûr, ouais.
D'accord. Et justement, les scénettes, il y a un truc qui est très pratique, c'est que, contrairement, je crois, hein, dans Vesperia, si tu en ratais une, c'est que tu es en train de marcher sur la carte, en train de vivre ton aventure, on te propose d'écouter une conversation entre les deux personnages. Si tu ne la choisis pas, bah j'avais l'impression que dans Vesperia, elle était perdue. Peut-être que je me trompe.
C'est ça.
Et alors que
c'est exactement ça.
Ouais. Alors que là, on peut chaque soir s'asseoir au feu de camp. Ça prend 10 secondes si on veut pas faire grand-chose au feu de camp. Mais si on veut y passer un petit peu de temps, eh ben, on peut réécouter ces scénettes-là. Ça fait partie des changements quality of life que tu évoquais dans ton test qui sont vraiment appréciables. Quoi. J'aimerais du coup qu'on parle en conclusion des combats qui sont pour moi... assez séduisant parce que j'aime bien l'idée d'avoir des combats vraiment action dans un JRPG, mais que j'ai trouvé moi dans les démos que j'ai fait des différents jeux que j'ai pas vraiment compris en fait. J'ai pas compris les mécaniques, les principes de gameplay et j'ai trouvé ça vraiment fouillis. Et alors, fouillis, ça peut l'être, mais j'ai pas vraiment compris ce que je devais faire, pour être honnête. Et dans ton test, tu détailles la chose avec les différents personnages qui ont différentes capacités, mais d'une manière générale, les principes de ces combats, est-ce que tu peux le décrire pour les gens qui connaissent pas ? Parce que c'est un petit peu particulier, j'ai trouvé, quand même.
Ouais, en fait, alors il y a un truc assez paradoxal, c'est que le fait qu'ils aient proposé une démo qui est assez avancée, ça permettait de se donner une idée du jeu, mais effectivement, tu balances quelqu'un à 40 heures de jeu à peu près. Enfin, j'exagère. Je pense que la démo, elle doit se passer, je sais pas, peut-être après une vingtaine d'heures, donc t'es censé avoir acquis en fait les mécaniques. En fait, la particularité des Tales of, et ça c'est un truc qui a toujours été le cas, c'est que les mécaniques de jeu vont se diffuser, elles sont diluées tout au long de l'histoire. C'est-à-dire que vraiment jusqu'à tard dans le jeu, tu vas continuer d'apprendre des nouvelles mécaniques, ce qui te laisse le temps de t'y habituer, de les intégrer et de te mettre à les exploiter. Là, ça va passer par le nombre de gens que tu vas avoir. On va commencer avec deux personnages, puis trois, puis quatre, jusqu'à six, c'est le max. Et beaucoup plus tard, il y aura encore des twists et des petites modifications. Mais en fait, la particularité de ce système de jeu, c'est que c'est un truc que tu vas apprendre. Quand tu commences, les premiers combats sont faciles, parce que justement, ils vont te mettre face à des situations très basiques. Et c'est petit à petit qu'on va complexifier la sauce et qu'on va rajouter en fait, des éléments à la formule, tu sais. Et donc, le principe, il est assez simple. Donc, le personnage a des attaques de base qu'on utilise avec le petit bouton. Enfin, bref, il a trois attaques de base qui lui permettent de faire un enchaînement. Il ne peut pas faire plus d'attaques. Ce qu'il faut, c'est qu'il utilise une attaque magique s'il veut continuer de faire des combos. D'accord ? Donc, il faut qu'il fasse comme une boule de feu, une attaque spéciale. Et ça, en fait, ça utilise les petits carrés qu'il y a au-dessus de sa barre de vie qu'on voit sur la vidéo ou que vous pourrez voir si vous regardez des images du jeu. Et donc, ça, ces petits carrés-là, ils peuvent se régénérer si on arrête d'attaquer. Ou si on réalise des actions spéciales, ce qui sont les actions bonus, ils appellent ça. En fait, c'est quand on fait appel à deux personnes, à capacité spéciale d'un perso, il va intervenir et ça va remettre un peu de points dans notre jauge et ça va nous permettre de continuer et ainsi de suite. Donc l'idée, ça
tu
va
veux
être
dire
de,
d'un autre
d'enclencher
perso,
un
d'un perso ouais, qui est avec nous.
C'est pas forcément le nôtre. Hein. C'est, ça peut être un des autres.
Ouais.
C'est ça. Donc tu peux. L'idée, c'est d'essayer de rentrer dans une espèce de cercle vertueux où tu évites les coups, tu ne te fais pas attaquer, tu laisses tout le monde en vie afin que leur jauge se grimpe petit à petit et que tu puisses les utiliser. Là où le jeu, après, il va rajouter des couches de complexité, c'est que effectivement, chaque perso, il a un rôle et donc il faut pas utiliser son action à n'importe quel moment. Le héros de base, donc Alphen, lui, qui peut utiliser son épée de feu là, ça lui fait perdre de la vie, mais par contre, ça peut mettre les ennemis au sol, donc il va interrompre leurs attaques. Shion, l'héroïne, elle avec son fusil, elle va tirer sur les ennemis qui volent pour les faire tomber. Et donc chaque personnage en fait a un rôle comme ça, et en fonction des le jeu va nous complexifier la vie en nous mettant face à tu vois des panachages d'ennemis. C'est-à-dire qu'on va avoir trois ennemis volants, un ennemi avec une carapace, et donc il faudra utiliser le personnage qui pète les carapaces. Après, ça va être des ennemis volants qui ont une carapace. Après, ça va être des ennemis volants qui ont une carapace et qui peuvent lancer de la magie. Et donc, on va avoir une complexité qui va se rajouter petit à petit. Et c'est pour ça que quand on vous met à 20 heures de jeu dans une démo, vous comprenez rien ce qui se passe.
J'ai rien compris.
Non, mais c'est... Parce que le système de jeu, encore une fois, il est beaucoup plus technique que ce qu'on pourrait croire. On n'est pas au niveau de technicité d'un jeu de baston, mais on n'en est pas très loin. C'est-à-dire que quand là maintenant, à l'ère de YouTube et de Twitch, moi je serais pas surpris que d'ici quelques temps, on ait des vidéos de gens qui fassent des combos de milliers de coups, parce qu'ils arrivent à faire en sorte qu'il y ait des combos infinis, comme on verrait dans un Street Fighter ou un Street of Rage 4, par exemple, récemment, qui avait pas mal amusé avec ça, quoi. Parce qu'il y a une vraie technicité, mais elle n'est pas apparente quand tu... Parce que c'est comme un jeu de baston, tu peux faire n'importe quoi sur les touches et ça marche.
Ouais. D'accord, écoute, ça me donne assez envie du coup, et bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de temps pour ma situation aujourd'hui, mais je me dis, au pire, peut-être que j'y jouerai une dizaine d'heures et déjà j'aurai une petite idée, peut-être que je vais le prendre du coup, ça me donne bien envie.
Ce qui est pas mal, c'est que c'est un jeu qui est pensé justement, tu le disais tout à l'heure avec l'histoire des feux de camp, c'est que c'est un jeu qui prend quand même, qui respecte un peu ton temps, c'est-à-dire que tu peux sauvegarder à n'importe quel moment, et en fait, il suffit que tu... Quand tu vois que tu as un peu de temps et que tu peux te le permettre, tu te mets autour d'un feu de camp à n'importe quel moment. Hein, ce n'est pas des moments imposés dans l'histoire. Tu vas à un feu de camp parce qu'en plus, tu peux voyager rapidement. Donc, tu peux te téléporter à côté d'un feu de camp et tu t'assois et tu regardes les scénettes que tu as manquées. Et puis, au pire, pendant 20 minutes, tu te fais ton petit épisode d'animé visuel novel et après, tu repars à la bidoche. Quoi.
Ah là là, je crois que tu es en train de me convaincre.
Pareil.
Ouais, c'est vrai. Et ce qu'il y a aussi...
Ouais. Et je me pose juste la question. Alors, toi, j'imagine que tu as joué sur PS5, du coup ?
Non, PC. J'ai fait la version PC, mais j'ai joué sur Play 5 aussi, ouais. J'ai fait mon test sur PC, pardon.
Est-ce que tu as un intérêt ? Parce que je vois qu'il est aussi sur old-gen. Est-ce qu'il y a un intérêt à y jouer sur une console next-gen et à payer le prix fort ?
Pour les temps de chargement, de toute façon, ça, c'est un argument qui est un peu difficilement... qui est difficile à battre. Si vous avez un PC, jouez-y sur PC, parce que vraiment, elle est très bien. C'est de l'Unreal Engine, donc c'est très bien optimisé, ça tourne vraiment nickel. C'est juste que Je pense de ce que j'en ai vu, parce que j'y ai pas joué hein, sur PS4, mais j'ai lu le paragraphe là de Puyo qui en disait que bon, ça allait quand même, c'était pas non plus la cata quoi. Ouais, ça reste un jeu cross-gen.
Ouais, c'est ça. Au niveau des graphismes, on sent que c'est peut-être un peu plus fin sur next-gen, mais c'est pas non plus un jeu qu'on pourrait pas imaginer sur last-gen quoi. On est vraiment dans ce.
Ah bah non. De toute façon, pour moi, la next-gen, c'est pas un apport de visuel, c'est un apport de confort et de qualité de jeu en fait. Tu vois, le fait que la console elle fasse pas le bruit d'un Airbus à chaque fois que tu lance un jeu, le fait qu'elle mette que quelques secondes à se charger au lieu de 3 minutes, enfin, c'est plus ça, la partie visuelle pour un jeu qui a un style graphique très cartoon, c'est pas très important.
Il ouais, y a quelqu'un notamment qui demandait si ça exploitait les features des manettes. Alors, il parlait de la DualSense, mais on peut aussi.
Ah oui, bon, sans plus, tu as des vibrations, quoi. Mais c'est pas, ouais. Tu vois, c'est pas Returnal, quoi. Donc, c'est pas.
D'accord.
Non, mais c'est. De toute façon, comme beaucoup des jeux qui seront pas des jeux Sony, ça va être plus gadget qu'autre chose, ça.
Ouais. On demande aussi dans la chatroom si c'est compliqué de paramétrer l'IA des PNJ. J'ai l'impression que vu que la difficulté est très paramétrable elle-même, ça dépend de ce que tu veux en faire, mais...
Non, c'est simple en fait, parce que c'est vraiment des. En fait, tu as une liste, je crois que tu peux mettre jusqu'à une quinzaine de règles, sachant que tu peux. T'as des trucs préfets que tu peux choisir. Hein, tu as des comportements généraux pour ton équipe. Tu peux leur dire faites attention, protégez-vous, défendez-moi, attaquez la même cible que moi, etc. Et puis tu peux te faire des paramètres un peu personnalisés si tu as envie. Et là, dans ce cas-là, bah, c'est vraiment des conditions. Ça va être des règles. Si tu as plus de 50% de vie, si tu as moins de 50% de vie, tu fais ça, tu déclenches ça, tu utilises tel objet. Donc c'est très simple. Hein, c'est des petites cases à remplir. Ça, si tu veux fine-tune le truc, vraiment essayer de personnaliser possible, en fonction de ton rythme de jeu et du perso que tu joues, parce que tu vois, moi je joue beaucoup le perso principal, mais on peut très bien jouer, faire tout le jeu en jouant quelqu'un d'autre, c'est possible, ça devrait même être très sympa. Donc voilà, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, quoi.
Super, bah écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter avant qu'on referme cette page Tales of, des choses qu'on aurait oubliées?
Oublier, je sais pas. C'est vraiment dire que pour moi, c'est pas tant le côté. Alors, le côté visuel, il est cool parce que, comme je le disais, ça, avec leur nouveau moteur, là, il y a des vraies expressions faciales. Donc, les cinématiques sont plus sympas. Il y a des expressions sur les visages des gens. Donc, je trouve qu'on est un peu plus intégré à l'histoire. Comme en plus, même leur tenue, le character design, l'histoire de manière générale, comme elle est un peu moins concon, bah, je trouve que c'est plus facile quand on est adulte de se plonger là-dedans. Et moi, vraiment, ce que je retiens de ce jeu, c'est l'histoire, quoi. C'est-à-dire que, à la fin, tous les persos, on les a accompagnés pendant une quarantaine d'heures. C'est très bien écrit, on a appris plein de trucs sur eux. Enfin, voilà. Et j'ai retrouvé ce kiff de vivre une jolie aventure comme dans des histoires de JRPG, ce que j'avais plus en fait ces dernières années, soit parce que les jeux partent dans des délires MMO comme Xenoblade, soit parce qu'ils partent dans des délires soit gacha, soit autre chose. Enfin, vraiment, là, moi, j'ai retrouvé une expérience que j'avais pas eue depuis beaucoup d'années. Donc, je pense que s'il y a des gens qui sont un peu frustrés et qui avaient plus de RPG dans leur vie, c'est peut-être la bonne solution, quoi. Ils ont vraiment réussi, je trouve, à trouver un bon équilibre.
Tu me donnes tellement envie, je crois que je vais le prendre et puis on verra si j'ai le temps d'en faire quelques heures. Ça me donne très très envie. Bah écoutez, si vous en voulez encore plus, je vous recommande très chaleureusement le test vidéo de Benoît sur YouTube, Exerve évidemment sur YouTube, et il a reçu le label C'est ouf, donc le label C'est ouf d'Exerve. Donc ça veut dire que c'est vraiment un jeu à ne pas rater, quoi.
Ouais, le dernier qui a eu ça, bon, bah, c'est Ghost of Tsushima, mais on va en parler après. Et avant, c'était Disco Elysium. Donc, je le lâche pas très facilement, celui-là. Quand même.
Ah ouais.
Ouais, ouais, non, c'est vraiment que pour les gros jeux.
Un jeu que j'ai adoré, donc un point de plus.
Très bien. Et bah, écoute, je crois que.
Et par contre, un truc qui est très important. Si vous regardez ma vidéo, j'ai fait un point d'honneur à rajouter 5-6 minutes de blabla au début. Parce que j'explique justement ma situation et pourquoi j'aime autant le jeu. Parce que on n'a pas tous le même contexte et on n'a pas tous le même vécu. Donc moi, j'insiste bien sur le côté, j'étais en manque de JRPG depuis des années. J'avais envie d'en refaire depuis FF7 Remake parce que ça m'avait redonné envie d'en faire. Et donc voilà. Mais ça, c'est un truc qui est important parce que c'est compliqué quand on est influenceur de... Des fois, on a des jeux qui nous plaisent énormément, et si on dit pas aux gens exactement pour quelles raisons, c'est pas que pour des qualités intrinsèques, c'est dommage, ça, c'est un peu mensonger, quoi.
J'ai l'impression, effectivement, que sur ce jeu en particulier, c'est pas un jeu qui va forcément convertir quelqu'un qui est pas du tout fan de JRPG. Si ça peut vous parler, on est un petit peu à la frontière entre... Moi, j'ai un système de notation sur tout qui est généralement, est-ce que c'est bien pour... C'est recommandé pour les gens qui aiment ce genre de truc, que ce soit un jeu ou un film ou une série, ou si vous aimez les jeux RPG, les JRPG, vous y retrouverez. Soit le jeu est tellement bien que ça peut carrément être intéressant pour les gens qui généralement sont pas trop clients de ce genre de jeu en particulier, donc qui dépassent sa catégorie ou son genre. J'ai l'impression que sur celui-là, on est presque à la limite, mais peut-être qu'on reste quand même dans la catégorie JRPG, et c'est l'excellence du JRPG, mais ça va pas plaire à des gens qui sont
ça
toujours...
Ça dépend.
Non, peut-être, ouais.
En fait, ce qui serait intéressant de voir, c'est d'avoir des retours, parce que bon, là, évidemment,
bien sûr,
on parle dans le vent, mais ce que je veux dire, c'est que si vous jouez à ce jeu-là et que vous accrochez, ben, c'est bien parce que du coup, vous avez ce qui se fait de mieux dans le JRPG depuis pas mal d'années, en fait. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, Puyo disait depuis Persona 5
tester,
ou le remake de FF7. Ouais, c'est voilà. Si ça, vous aimez vraiment pas, bon, il y a peu de chances que vous aimiez les autres JRPG parce qu'ils sont moins bien, de toute façon. Mais par contre, si vous accrochez à celui-là, ben voilà, vous allez peut-être vous découvrir, vous aurez la chance de tester un bon truc, quoi.
Pour la comparaison avec Persona, je dirais qu'il y a même peut-être, d'après ce que j'ai compris de celui-là, quelque chose de moins ardu, parce que Persona, il y a toute la partie simulation
c'est
de
vie.
C'est trop long. Bon, c'est trop long aussi. Et puis toute la partie simulation de vie d'écolier qui peut vraiment rebuter certaines personnes. Là, on reste dans une aventure héroïque fantasy.
Ouais, là, c'est de la fantasy.
Et c'est pas
fantasy,
qu'il y a... On peut genre faire de la cuisine, élever des animaux à la ferme, tout ça, mais ça reste accessoire, j'ai l'impression. C'est pas que tout à coup, l'aventure en donjon s'arrête pour Persona, et puis
ouais,
c'est genre passe une heure à répondre à des quiz en classe,
oui,
tu vois.
Oui.
C'est pas
non,
ça.
Non, là tu peux... Enfin, c'est complètement annexe. Je serais vraiment pas surpris, il faudra que je regarde sur A Long To Beat, là, dans quelques semaines, mais je serais pas surpris qu'il y ait des gens qui le finissent en même moins de 30 heures, en fait. Parce que si tu vas vraiment juste en ligne droite... Le jeu, il peut aller assez vite, hein, surtout en mode facile, encore une fois. Après, en mode difficile, pour les gens qui veulent aller jusqu'au bout, là, c'est clair qu'on peut passer plus de 100 heures, mais non, il n'y a pas toutes ces phases-là, on reste dans une aventure. Donc, il y a vraiment ce côté, on suit un groupe, il y a une histoire, il y a un plot qui évolue au fur et à mesure, il y a des retournements de situation, et on est, en plus, comme il y a ce côté, voilà, avec des fois des séquences qui sont vraiment animées, comme dans un dessin animé, ça, t'as vraiment l'impression de suivre une belle histoire, quoi, tout au long.
Super, bah écoute, merci beaucoup pour cette longue explication sur Tales of et spécifiquement Tales of Arise. J'espère qu'on aura donné envie à au moins quelques auditeurs. En tout cas, moi je sais que je vais maintenant beaucoup hésiter et peut-être me laisser tenter. Est-ce que vous savez pourquoi on peut faire le rendez-vous jeu ? Il y a évidemment une passion énorme qui nous anime, mais la passion, malheureusement, ça ne paye pas les pattes et ça paye pas le loyer. Et la raison pour laquelle on peut en faire notre métier et vous proposer des émissions...
Ah bon, t'es sûr ?
C'est ce que j'ai entendu. Écoute...
Ah ouais. Moi, j'ai des gens de chez Webedia et d'autres trucs qui m'ont dit que non, hein, c'était des conneries. Hein. Ils m'ont dit que la passion, c'était ça suffisait.
Ah, mais c'est peut-être en Finlande alors, c'est différent. Hein. En Finlande, ils ne prennent pas cette monnaie. C'est peut-être
ils prennent
ça.
Pas la merde.
Non. Mais du coup, c'est grâce à vos contributions qu'on peut vous amener une émission chaque semaine sans faute depuis maintenant. Bah, le rendez-vous jeu, ça fait quoi, 7 ans déjà, 6 ans, 6 ans? Ouais, non, 7 ans qu'on fait le rendez-vous jeu et qu'on est là toutes les semaines ou presque. Donc, si vous appréciez l'émission, je vous inviterai à la soutenir financièrement sur patreon.com/rdvjeux. Et il y a, d'après ce que je comprends, d'autres personnes qui sont sur Patreon que vous pourrez soutenir du même coup. Peut-être des personnes qui s'appellent Exerve au hasard.
Et ah oui, c'est vrai que je suis sur Patreon maintenant.
Bah oui, c'est ça.
Oui, oui. Donner sur Patreon, c'est très important.
c'est pratique parce que du coup, il y a eu une... Enfin, c'est pratique. Bref, l'histoire est compliquée. Mais maintenant, il y a plusieurs personnes que j'adore qui sont aussi sur Patreon. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour les gens qui sont déjà sur Patreon de contribuer à plusieurs personnes. Et si vous êtes déjà contributeur du rendez-vous jeu, bah peut-être que vous retirerez une petite partie pour la donner à quelqu'un d'autre qui est arrivé et que vous appréciez. Moi, ça me ferait très plaisir que plus de personnes réussissent à vivre de leur passion sans avoir à payer en passion. Et j'ajoute une autre chose, j'ai détaillé dans le rendez-vous tech donc assez longuement, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais il n'est pas impossible que je fasse un test sur les mois à venir en ajoutant une pub, ce qui s'appelle du mid-roll, c'est-à-dire une coupure pub au milieu de l'émission. Aujourd'hui, je parle du Patreon en milieu d'émission et peut-être que je vais tester pendant quelques mois le fait de parler un petit peu moins du Patreon, donc j'en parlerai quand même parce que ça reste absolument essentiel, mais peut-être ajouter une coupure pub d'une minute. Donc au total, je voudrais que ça fasse moins que ce que je passe sur le Patreon aujourd'hui, hein, peut-être un total qui soit moins long. Mais vraiment, entre la pub et le soutien Patreon, j'ai réussi à développer les émissions et mon activité de manière un petit peu inattendue. Je réussis à rémunérer des gens qui m'aident, notamment Fanny qui est dans la chatroom et d'autres personnes qui travaillent avec moi sur le site, sur la création de contenu, sur plein de choses. Et il y a des choses qui arrivent en ce moment qui sont assez intéressantes. Je vais tester, je vais voir si c'est pas trop gênant d'ajouter un mid-roll, combien ça rapporte aussi, parce qu'il faut que ça vaille le coup, et tester ça, et on verra ce que ça donne, et puis on réévaluera dans quelques mois. Donc je voulais vous prévenir, évidemment, pour que vous soyez au courant, mais on verra si ça se fait, d'une part, et puis si ça se fait, si c'est concluant ou pas. Et n'hésitez pas à me faire des retours hein, là-dessus. Je suis toujours preneur, que ce soit sur Twitter ou sur le Discord ou la plateforme que vous utilisez. Je suis toujours preneur de vos retours, constructifs hein, évidemment, mais qu'ils soient positifs ou négatifs. Et quoi qu'il en soit, si vous êtes patriote, je suis évidemment incroyablement reconnaissant de votre soutien. Donc si vous ne l'êtes pas, ça reste sans aucun doute le meilleur moyen de soutenir l'émission. Donc vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvjeux. J'ai oublié d'enlever les images de Tales of Arise, donc je ne vais pas dire que cette discussion était
sponsorisée par moi. Allez,
sponsorisée par Benoît, exactement.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On va continuer avec Ghost of Tsushima Legends. Je vais vous poser la question à tous les deux, du coup. Benoît, je sais que tu aimes beaucoup Ghost of Tsushima. J'ai cru comprendre, je ne sais plus où tu en parlais, mais j'ai cru comprendre que tu n'avais pas vraiment testé Ghost of Tsushima Legends, qui est le mode multijoueur de Ghost of Tsushima, qui a été ajouté un petit peu après la sortie.
La raison, elle est très simple, c'est que j'aime pas les jeux multi. Donc, ouais. Je joue très rarement à des jeux en multijoueur. Ça peut m'arriver avec ma copine ou un groupe de potes, mais Ghost of Tsushima, fallait que je joue avec des randoms et ça, non merci. Mais le peu que j'ai joué, j'ai trouvé ça très bien foutu. Voilà.
J'ai, testé le nouveau mode de Ghost of Tsushima Legends qui est franchement... Alors, à la base, je vous en parle régulièrement depuis quelques temps. Ghost of Tsushima Legends, c'est un mode qui est vraiment, vraiment convaincant. C'est uniquement du PvE, c'est-à-dire qu'on va jouer un personnage qui va avoir des capacités spéciales pour sa classe de personnage et on va vivre des aventures spécifiques qui ont été créées pour ce mode avec le moteur de Ghost of of Tsushima. En partie, ça va être des missions d'histoire qu'on va jouer en coop avec une autre personne, qui sont très bien faites pour inciter à la coopération, justement, et qui fonctionnent vraiment bien. Puis il y a une autre partie, un deuxième mode, qui est une sorte de mode horde classique, qui est là depuis le lancement de ce mode multijoueur. Là, il y a quelques jours, ils ont rajouté un troisième mode, qui est un mode PVPVE, comparable au Gambit dans Destiny, c'est-à-dire qu'on a des ennemis à éliminer, un petit peu comme un mode horde, on va dire, et il faut le faire plus vite que le groupe, l'équipe d'en face. Et on est deux équipes de deux, donc c'est, le matchmaking est très rapide, c'est bien foutu. Et à la fin, on a trois vagues, quand on a réussi à battre un certain nombre d'ennemis, on a trois vagues d'ennemis un petit peu plus forts à battre, et une fois qu'on a réussi à faire ça, on a gagné. Et qu'est-ce qui se passe quand on a gagné ? Et ben, comme pour les autres modes, on a des nouveaux équipements, des armes plus puissantes avec un système de niveau, de rareté, enfin le truc super classique quoi. Donc d'une part, j'aurais tendance à penser que si c'est pas votre truc, un petit peu comme Benoît, bah là on est pile dans le jeu service qui est, comment dire, qui n'a pas les défauts du jeu service parce qu'il n'y a rien de payant dedans. C'est un mode qui est inclus au jeu, qu'on peut acheter à part d'ailleurs aujourd'hui pour une vingtaine d'euros. Je crois que c'est déjà lancé, peut-être. Oui, je crois que c'est déjà lancé.
Oui, ça s'est lancé au début septembre.
C'est ça.
Ah bah, il y a peut-être quelques jours.
Exactement. Et donc, c'est 20 euros pour ce mode-là et c'est tout. Il n'y a pas de microtransactions ensuite. Donc, mais ça reste un jeu vraiment type jeu service, tous les jeux à loot. Bon, c'est un petit peu ça, sauf que c'est pas un jeu dans lequel on veut vous faire passer des mois et des mois. C'est un jeu auquel vous allez jouer un petit peu de temps en temps. Bon, après il y a un mode raid, il y a des difficultés encore plus grandes qui vous sont proposées si vous arrivez au bout niveau puissance des objets, mais ça reste relativement comment dire, c'est pas un commitment. Vous devez pas y passer vos journées et toutes vos soirées et vos week-ends pour progresser. On fait une partie de temps en temps, c'est très léger. Une partie dure 15-20 minutes. Ils ont réduit le temps de certains modes qui étaient plus longs. Et on y prend vraiment pas mal de plaisir. La progression est sympa. Et vraiment, ça fonctionne. Donc, je sais pas vraiment quoi dire à quelqu'un comme Benoît, dont c'est visiblement pas la cam à la base. Peut-être que ça pourrait te plaire quand même, mais si c'est un petit peu votre truc et qu'en plus vous aimez Ghost of Tsushima ou que vous voulez le découvrir, et ben là, avec ce troisième mode et les petits changements qu'ils ont fait, ça devient un mode qui est vraiment pas juste sympa, mais très complet, qui tient complètement tout seul. Et la variété qu'on a avec ce troisième mode, ça rajoute un petit peu ce qui ça casse un peu la répétitivité qu'on pouvait craindre quand il n'y en avait que deux. On était à la limite d'un truc vraiment super cool, et ben là on dépasse un petit peu cette limite et on est dans un jeu qui, pour 20 euros pour le coup, vaut 100% l'achat à mon sens. Donc voilà, le mode rival, bon, il n'y a pas besoin d'en parler pendant deux heures, hein, c'est comme je disais PVPVE classique, c'est juste sympa comme le reste, mais c'est la variété que ça amène à Ghost of Tsushima Legends dans son ensemble qui a une vraie valeur. J'ajoute que, pour ceux qui s'en souviennent pas, le jeu est vraiment complet, hein. On a une progression avec des capacités pour chaque classe qui sont un petit peu le miroir de ce qu'on trouve dans le jeu solo, divisé en quatre classes, mais tout de même on a des apparences à gagner, des émotes, et évidemment ces armes spéciales qui vont vous faire qui vont vous permettre d'avoir des choses différentes quand elles sont légendaires.
T'as oublié le seul vrai argument, c'est que dans le mode Legends, il y a un mode photo et qu'on
c'est
peut
ce que
utiliser
j'allais dire.
Les cosmétiques qu'on gagne dans le mode Legends. C'est la seule chose qui m'a fait jouer la dernière fois.
D'accord, bah écoute, c'est effectivement important pour certains, mode Legends, mais du coup, quand on est en mode photo, on n'est plus en multi, tu vois, on est uniquement local.
Non, mais coup, comme tu as beaucoup plus de variété, tu as un côté beaucoup plus fantasy, il se lâche vachement plus dans les costumes, ce qu'il propose, il n'y a pas la cohérence qu'il y a dans le jeu de solo, du coup c'est bien, ça permet de s'amuser avec le mode photo.
Donc voilà pour Ghost of Tsushima Legends, qui est désormais disponible en standalone. Je l'avais évoqué, je crois, la dernière fois, mais les ajouts du mode PS5, autant le chargement ultra rapide, c'est très très cool. Vraiment, on peut passer d'ailleurs du mode normal au mode Legends en 2 secondes. C'est vraiment très très sympa. Mais la gâchette, c'est hyper anecdotique. Hein. La gâchette adaptative, les vibrations, moi je trouve que c'est du niveau de l'anecdotique complètement, quoi.
Ouais, bah, encore une fois, c'est des... en fait, tant que ce n'est pas des jeux qui sont pensés pour exploiter ce truc-là au départ, il n'y a aucune raison de perdre du temps là-dessus. Quoi. C'est... Bah... Vu que le jeu il existe encore sur Play 4, et en plus sur Play 4, il est déjà très propre techniquement.
Tout à fait. Voilà pour Ghost of Tsushima Legends. Je voulais évoquer éventuellement, il y a des gens dans la chatroom qui disent si la gâchette c'est cool. Ok, bon, peut-être.
Ouais,
que
mais
ça
c'est Johan. Enfin, je veux dire.
Allez.
Est-ce que ton avis compte? C'est ça la question.
Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Fist, qui est un autre jeu qui est sorti il y a peu et qui est une sorte de Metroidvania qui a un look intéressant. Je pense qu'on a vraiment pas besoin d'y passer des heures parce que je crois que la conclusion, c'est qu'il est, il est assez quelconque, mais...
Oui, moi, c'est ce que j'ai dit, mais après, c'est mon avis. Hein. C'est, en gros, c'est, donc c'est un jeu qui est développé par un studio chinois, j'ai oublié le nom, et ce qui est intéressant, en fait, à signaler sur ce jeu-là, c'est que ben, c'est Shuhei Yoshida, Yosp sur Twitter, hein, qui est le grand patron de Sony, mais qui s'occupe un peu de découvrir des jeux, il a un rôle vraiment central dans l'acquisition des jeux indés et des jeux un peu étrangers. Et c'est vrai que bon, moi je l'ai trouvé inintéressant, mais par contre, voilà, c'est un jeu chinois avec un moteur graphique et un rendu graphique qui est très très propre. Et c'est une exclue temporaire PlayStation, puisque ça sort que sur PS4 et sur PS5. La sortie PC a été repoussée, puisqu'ils ont réussi à négocier un deal. Et voilà, donc c'est vrai que bon. C'est un Metroidvania, donc là, le temps que je finisse cette phrase, il en sera sorti 8 sur Steam. du coup, c'est vrai que c'est difficile d'être motivé quand je l'ai lancé. Par contre, c'est très propre visuellement, effectivement. C'est plutôt sympa en termes de sensations. C'est un jeu, j'y ai joué qu'une heure. Hein, donc, c'est vraiment voilà, une petite phase de découverte, comme je peux faire. Tout ce qui est déplacement et tout, c'est pas mal. Après, l'univers et l'histoire avaient l'air vraiment d'un classicisme sans nom. Mais bon... Si vous êtes vraiment en chien en attendant Hollow Knight Silksong, ben pourquoi pas. Disons que parmi tous les Metroidvania qui sont sortis récemment, je pense que c'est un des plus sympathiques. Il y avait Grime qui était très très cool également il y a quelques temps. Mais si vous voulez un truc qui envoie du pâté et que vous cherchez des exclus pour votre console Sony, ben écoutez, voilà. Et que vous aimez les animaux avec des poils, mais ça, je ne vous juge pas.
C'est ça, c'est...
Les animaux sans poils, c'est bizarre.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un jeu furry de ouf, quoi.
C'est des animaux anthropomorphes. On a le personnage principal qui est un lapin. Et puis, c'est un style... Comment tu l'as appelé? Dieselpunk
C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ouais. C'est comme ça qu'ils
disent. C'est du cyberpunk crado. Ouais.
Ouais. Ça me faisait un peu penser à Fox... visuellement sur le chara-design, mais sans le côté tout punk. Mais...
Je voyais pas de quoi tu parlais, mais ok.
Bah, juste le côté anthropomorphe, ça me faisait penser à ces univers-là. Moi, ça m'avait fait penser à ça sur le coup. Mais bref.
Moi, c'est que j'avais pas compris de quoi tu parlais, en fait, désolé. Mais bon, on va pas...
C'est pas grave.
Bon, ok, on avance pour que tu nous parles de ton expérience PlayStation 5. Du coup, Eska, c'est un jeu dont on a déjà parlé, mais du coup, tu t'es mise sur Ratchet & Clank, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. Du coup, alors j'ai commencé par le petit jeu démo, donc Astro Bot, si je dis pas de bêtises, qui est sur la PS5 et qui est plus une démo pour la manette, pour la DualSense qu'autre chose. Vraiment très bien fait. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce petit jeu-là jusqu'au bout. On en avait déjà parlé ici avec...
Oui, c'était 2020, ça. Tu vois, maintenant, tu as rejoint la bourgeoisie, mais tu es quand même encore un petit peu en retard. Je comprends.
Et du coup, j'ai terminé Ratchet & Clank hier. Et pareil, alors c'est le premier Ratchet & Clank que je faisais. Donc du coup, je n'ai pas forcément toutes les références, même si je comprends bien typiquement là le grand méchant qu'on voit à l'écran qui est a priori un grand méchant.
Docteur Nefarious.
Docteur Nefarious. Et puis, il y a plein d'autres clins d'œil avec plein d'autres personnages qui reviennent. Donc, moi, bon, après, ça ne m'a pas du tout dérangé, mais j'imagine que pour le fanservice, c'est assez chouette. Pareil, a priori, donc, le gros problème de Ratchet, c'est qu'il est le dernier Lombax de l'univers. Et là, tout le pitch, c'est que justement, avec ses ouvertures de failles interdimensionnelles, eh ben, il n'est peut-être plus vraiment le seul Lombax. toutes les dimensions confondues. Du coup, voilà, moi j'ai vraiment passé un très bon moment. D'un point de vue gameplay, c'est pas prise de tête, c'est très fluide, on sent que c'est maîtrisé. Et puis visuellement, très chouette. Alors, avec l'ADA un petit peu, un petit peu dessin animé ou un peu comics, je le dis très mal, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On pourrait s'attendre à ce que ce soit pas forcément une claque visuelle. Et au contraire, je trouve que les environnements sont sublimes. Il y a des effets de lumière qui sont assez fous. Et je trouve que pour un premier jeu de PS5, du coup, pour un jeune acquéreur de la console, tu sens quand même le gap par rapport à la PS4, donc ça fait plaisir et ça donne envie de voir tout ce que la console va proposer ensuite. Moi, j'ai passé un super moment.
Ouais, c'est un jeu, c'est ouf, hein, il faut le signaler. Voilà, je me suis laissé dire que des gens de bon goût avaient dit que c'était ouf.
Ah, c'est vrai, c'est un jeu, c'est ouf aussi.
Ouais, c'était un de mes jeux, c'est un de mes jeux favoris de l'année dernière, gros. Non, quand est-ce qu'il est sorti?
Mais c'est cette année, c'était il y a.
Oui, c'est sorti là, ouais, ça sera dans mes gros jeux. C'était en juin, ouais, mon test, tu vois, c'était il y a très longtemps.
Il y a plusieurs mois. En ce moment, tu sais, chaque mois ensemble 10, donc je comprends.
Non, mais c'est ça, c'est la perception du temps est compliquée. Mais oui, non, mais moi, c'est pareil, j'ai adoré, j'ai trouvé ça top et c'est super drôle. Enfin voilà, bon, après, j'aime beaucoup Ratchet parce que je l'ai fait depuis pas mal d'années, donc c'était même pour les gens qui connaissent pas, c'est vrai que c'est cool. Hein. Je suis content d'entendre quelqu'un qui découvre la série avec celui-là.
Ouais. Ça donne envie de découvrir les autres, ouais.
Je crois que je vais être, encore une fois, la seule personne en fin d'année à avoir trouvé Ratchet & Clank, enfin, à avoir trouvé un jeu sur lequel tout le monde est d'accord, un peu neutre, on va dire. C'est pas que j'ai pas aimé, mais je l'ai trouvé, ouais, bon, ça va.
Après,
bien... Enfin, tu es Patrick Béja, tu vois, je veux dire. Les gens sont au courant. Hein.
Écoutez, est-ce qu'il y a Iron Man dedans?
Ça fait longtemps que je suis pas venu, moi.
Est-ce qu'il y a Iron Man dedans? Non, bah donc forcément, j'aime pas. Je veux dire, c'est un petit peu le principe de base.
Il y a pas Iron Man, mais on dirait un Iron Man furry quand même, un petit peu.
Un petit peu, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais il y a pas de, tu sais, il y a pas de d'extension, de annual pass, des niveaux de d'objets à chasser, tu vois. En gros, c'est ce genre de truc qui me plaît.
C'est un jeu qui te respecte, alors du coup t'aimes pas ça.
Exactement. Comment voulez-vous que je puisse avoir une relation malsaine avec ce jeu qui est tout en bienveillance? Donc forcément je ne m'y lance pas. Bon, parlons un petit peu d'autre chose. On a ce soir une conférence Sony qui va arriver et qui devrait être une grosse conférence Sony. Alors, au moment où vous entendrez cet épisode, il est très possible que vous ayez déjà vu ou entendu parler des annonces de cette conférence. Donc, on va juste en parler très rapidement pour faire quelques prédictions. J'imagine que ça va être un gros morceau, parce que généralement quand c'est pas un gros morceau, ils ont tendance à dire on parlera de jeux d'éditeurs tiers, ou on ne va pas annoncer de nouveautés, ou pour gérer les attentes des gens. Du coup là, on peut se prendre à rêver si on est un petit peu masochiste. Est-ce que vous avez une idée, on va pas encore une fois y passer longtemps, hein, mais juste en quelques mots, une idée enfin une prédiction, est-ce que vous mouillez pour dire ce qu'on va y voir ou pas?
Ouais, parce
Benoît,
que tu rajoutes des trucs, c'est bizarre ta phrase.
Dis-nous.
Non, tout va bien, tout va bien.
Peggy 18.
Ouais, les gens ont compris, voilà.
Oui, d'accord, j'ai compris, ça vient de... Ok, Benoît, est-ce que toi, tu veux te mouiller dans ces conditions?
Écoute, juste pour troller les gens, ils vont annoncer Bloodborne sur PC, voilà, parce que ça me fait tellement mourir de rire. que c'est vraiment un sujet. En plus, avec un peu de bol, s'ils le font pour de vrai, je pourrais dire que je l'avais prévu. Voilà.
Très bien.
Moi, c'est vrai que j'étais surpris quand ils ont annoncé, parce que c'est vrai qu'on les attendait, en fait. Il n'y avait rien eu pour le 3. Ils avaient pas, je pense qu'ils avaient du retard, en fait, tout simplement, hein, Covid, tout ça. Ils ont quand même réussi à montrer une grosse démo de gameplay de Horizon Forbidden et d'annoncer la date il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'était cool. Je ne serais pas surpris qu'on ait des nouvelles d'autres studios, parce qu'en fait, y a plein de PlayStation Studios dont on n'a pas de news. Je ne serais pas surpris qu'ils nous présentent également les différents achats, parce qu'en fait, il y a des trucs qu'on ne sait peut-être pas encore sur les acquisitions, les trucs comme ça. Écoute, moi, je pense vraiment qu'on va avoir un peu de teasing sur du God of War ou un jeu ou un nouveau jeu Naughty Dog. Ça serait, je vois pas,
Naughty Dog,
ça me choquerait pas. Ouais.
D'accord. God of War, je pense qu'effectivement, il est temps. Il l'avait annoncé pour 2021. Clairement, il a été retardé. Mais on imagine qu'il sortirait en 2022. Et donc, ça fait dans à peu près un an. Peut-être qu'ils vont commencer à nous en parler. Et puis, sur les acquisitions, peut-être. Ils viennent d'ailleurs d'acheter un nouveau studio qui était plutôt un studio qui avait travaillé avec eux sur de la VR. Donc, c'est pas encore le moment.
Ils ont récupéré plusieurs gros studios qui sont des techos, tu vois. Ça a été confirmé ou pas finalement le rachat de
Bluepoint
Non, c'était... ils ont fait glisser l'histoire, mais c'était pas il y a aussi Polyphony, c'est vrai que tu vois, je pense qu'on aura des nouvelles de Gran Turismo, parce que ça c'est pareil, ça fait partie quand même de leur licence sûre.
Peut-être.
Je suis en train de regarder les studios, la PlayStation Studio Guerrilla, on sait sur quoi ils bossent.
Dehors des studios PlayStation, si on ne va pas avoir droit à du Final Fantasy XVI, parce qu'ils l'ont montré à la sortie de la console.
Entière. J'étais encore sur les first parties, moi.
D'accord. Mais Naughty Dog, moi, je suis pas sûr si on parle de first party.
Je pense qu'ils soient capables de balancer, tu sais, un peu de teasing comme ça.
Peut-être.
Ne serait-ce que pour faire bisquer la concurrence.
C'est possible. Surtout qu'ils ont sur cette fin d'année, ils ont rien d'exclusif du côté de Sony, alors que Microsoft sort les cartouches Forza et Halo Infinite. Du coup, peut-être que pour donner. ça dépend de qui on est. Hein. Tu sais, il y a des gens à qui ça parle.
Oui, bien sûr.
Mais oui, moi je crois que ça serait pas impossible que pour justement dire à tout le monde, allez, on est encore là, on est là, on arrive, 2022, ça va être multiple, c'est ouf. Peut-être qu'il pourrait sortir d'autres cartouches, c'est possible. Esca, toi, est-ce que tu as des espoirs ou des prédictions?
Je pense qu'effectivement Naughty Dog c'est déjà un gros morceau. Après j'aimerais bien entendre parler de la suite de FF7 Remake, ça c'est certain. Mais enfin je vois que ça fait partie des choses qui reviennent beaucoup dans les commentaires du chat. Soit FF7 Remake, soit le prochain Final Fantasy. Mais déjà s'ils parlent de ça, je pense que je serais très très heureuse.
Ouais.
Me demande également, tu vois, s'ils vont pas annoncer un peu des évolutions au niveau de la collection PS Plus et du PS Plus, de proposer peut-être un abonnement intégré avec le PS Now, etc. Parce que je pense qu'en termes de service, il serait temps qu'ils répondent au Game Pass d'une manière ou d'une autre. Parce que je sais que leur stratégie, c'est de miser sur les franchises et je suis d'accord avec eux. Je suis biaisé, hein. Je suis plutôt Team PlayStation, ça c'est connu. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense ça vaudrait quand même le coup de proposer quelque chose de peut-être de plus consolidé face à Microsoft, parce que là, le Game Pass, ça devient tellement fort. Je pense que ça doit quand même les chatouiller, quoi.
Si peut-être des nouvelles du prochain God of War.
Oui, Benoît l'avait mentionné. Moi, je vois bien une ouverture sur un petit peu plus de Horizon, mais pas beaucoup, parce que c'est pas la peine. Et puis une fermeture sur God of War, ça me paraît très possible. Je crois qu'ils vont garder leurs cartouches. Les autres cartouches, ça me surprendrait pas qu'ils les gardent, parce qu'encore une fois, les consoles, ils les vendent toutes. Ils en mettent une en vente et elle disparaît dans l'instant. Donc, ils ont pas besoin de générer plus d'excitation. Ils font un petit peu quand même, parce que c'est la période de Noël, mais ils n'ont pas besoin de générer plus d'excitation que ce qu'ils ont maintenant, parce que le but de tout ça, évidemment, c'est de vendre des consoles, et là, ils les vendent déjà toutes, donc c'est pas bête de garder les cartouches. Par contre, peut-être que les services, une évolution du PlayStation Plus / PlayStation Now, avec en plus un abonnement à leur conglomérat géant de services de streaming d'animé.
Oui, de manga, ouais. Quelqu'un qui dit ça sur le chat, c'est vrai que c'est pas bête, comme ils ont récupéré Crunchy, ADN et tout ça...
Ouais, ils ont tout, ils ont Crunchyroll, ADN.
Ouais, ils ont tout. Hein.
C'est quoi le troisième? Je sais plus. Mais oui, ils ont tous les services de streaming d'animé et comme tu le dis, il y a aussi du manga. Donc il y a Vincent qui dit dans la chatroom le retour de Battle Arena Toshinden.
Oh, ah bah voilà.
Ça serait, ils gagnent le 3 direct avec ça.
Moi, je suis assez d'accord parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti de jeu de merde. Donc, faut équilibrer les choses de temps en temps, c'est important.
Mais tu sais, on parlait des Tales of tout à l'heure. Moi, il y a un studio japonais dont j'adore le travail justement en JRPG, c'est Tricrescendo.
Et ah
ça
là
fait
là.
Partie, ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas sorti un.
C'est quoi Tricrescendo?
C'est les gens. Enfin, vas-y.
C'est le studio qui avait fait Baton Kaitos et Eternal Sonata, que moi, c'est des jeux que j'adore. Et je, à chaque fois,
écoute, j'ai des nouvelles d'eux, si tu veux.
Oh, ça m'intéresse.
Ouais. Et ben, je peux te dire qu'ils ont tous travaillé sur Tales of Arise, parce que du coup, ils bossent. C'est un studio, aujourd'hui, Tricrescendo, maintenant, c'est un studio qui dépanne. C'est plus des gens qui font des jeux. Quoi. Ils sont tous crédités. Parce que bon, les crédits de Tales of Arise, tu vois qu'ils ont mis énormément de moyens derrière. Mmh. Et ouais, en fait, tous les gens de Tricrescendo ont bossé dessus. Donc, je ne suis pas sûr qu'on les revoie un jour avec leur propre IP. Hein.
Ouais, malheureusement. Mais bon. Écoute,
je suis entièrement avec toi hein, là-dessus.
Je viens d'acheter Tales of Arise, donc du coup, écoute, tu viens de mettre le clou final au fait que.
Allez, bim. Bah, après, je pense pas que ça ait impacté quoi que ce soit, tu vois, dans la création du jeu, mais c'est vrai que t'avais des rumeurs pendant un temps d'une ressortie d'un Baten Kaitos, mais bon.
Bon. Écoutez, on aura la réponse dans quelques heures de toute façon. Johan suggère aussi un logo Spider-Man, puisqu'il y a un film qui arrive là à la fin de l'année. Peut-être un truc autour de Spider-Man, possible. Ouais. Il y a des.
Peut-être le retour, je sais quoi. Il y aurait quoi sinon comme grosse licence qu'ils ont. Il y avait qui avait un peu marché. Il y avait Little Big Planet. Ils pourraient peut-être essayer de faire un truc avec Dreams, je sais pas.
Ouais,
moi, Dreams, je te dis, c'est vrai que j'avais oublié parce que je m'en fous, mais c'est vrai que bon, Gran Turismo, vu qu'on sait que ça va arriver, il faut qu'ils le montrent, quoi.
Bah oui et non, moi je pense qu'ils auraient effectivement des dizaines de choses à montrer potentiellement, et puis beaucoup de. Mais je pense qu'ils vont faire une place au tiers, et puis qu'ils vont garder leurs cartouches, parce qu'encore une fois, même si c'est frustrant pour nous, leur but, ils vont pas maintenant lâcher des trucs qui seront moins impactants du coup quand ils en reparleront dans 6 mois ou 1 an, pour le prochain E3 par exemple, alors que ça va pas mener à plus de ventes de consoles, puisqu'elles sont visiblement pour les prochains 6 mois au minimum encore très contraintes au niveau de la production, et qu'elles trouvent toute preneur. Donc vraiment, stratégiquement, ils n'ont aucun intérêt à lâcher plus de trucs que ce qu'on connaît déjà. C'est pour ça que je pense que Horizon et God of War, avec peut-être un petit truc au milieu, et c'est tout. Et les services, ça rajoute de l'argent, parce que si tu rajoutes un nouveau service auquel les gens s'abonnent quand ils ont déjà ta console, bah, ça te rajoute des sous tout de suite.
Ouais. Donc, c'est sûr que si Crunchy s'est intégré au PS Plus, je serais content, parce que j'ai déjà, je paye mon abonnement Crunchyroll à côté. Donc,
ah oui, ça, mais ça sera cool. Hein. Oui, moi je pense que ça sera
peut-être
PS
plus cher,
plus,
mais ça sera.
C'est ça.
Ouais, mais bon, si c'est moins cher que les deux, c'est mieux. Hein.
PS Plus et PS Now ensemble, parce que le PS Now est quand même assez étoffé hein, de plus en plus, même s'il n'y a pas les toutes dernières nouveautés. Si tu rajoutes une petite cerise avec de l'animé en plus, pourquoi pas.
Bon, j'aimerais bien du contenu aussi sur Returnal. Voilà, c'est mon petit désir où je me dis que ça, c'est quand même un peu plus réaliste parce que bah, le jeu, je l'ai vraiment adoré. Il est passé à ça. Je le montre avec mes doigts du c'est ouf. C'est juste qu'il était un peu chiche en contenu. Mmh. Et je me dis, bah, si c'est bien vendu, ce qui a l'air d'être le cas, ça me ferait plaisir qu'ils puissent en faire parce que c'est vraiment un des gros jeux de la PS5 pour les gens qui veulent découvrir le potentiel technique de la console. Elle s'envoie du pâté. Hein. Mmh.
Est-ce que tu crois à Silksong, toi?
Moi, non, pas là. Enfin, j'y crois plus, en fait, maintenant. Je vois pas. Enfin, je serais surpris qu'ils l'annoncent avec PlayStation. Je trouverais ça.
Ouais,
j'ai l'impression que Nintendo a quand même réussi à verrouiller le truc et que le jour où on aura un Nintendo Direct, ça sortira là-dedans. Mais je peux me tromper. Hein. Je suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai plus l'impression que c'est du côté de Nintendo que ça va se passer parce que la stratégie de Sony est quand même moins orientée indé depuis pas mal d'années. Ils ont pas autant mis le focus là-dessus, à part quelques rares exceptions. Donc, je sais pas.
Bon, puisqu'on parle de Sony, on va aussi évoquer cette histoire du cafouillage des différentes éditions de Horizon Forbidden West, puisque à l'annonce des différentes éditions dont il y en a 4 ou 5 avec des éditions à $250, même plus, et en gros, bon, au-delà des différentes éditions elles-mêmes, le truc qui a marqué tout le monde et qui a beaucoup fait rire Twitter, c'était que pour acheter une version... En fait, si on achetait la version PS4, eh bien, il n'y avait aucun moyen de passer à la version PS5. Donc, tout le monde était en train de dire, attention, la version PS4 coûte $10 de moins ou 10 euros de moins que la version PS5, mais si vous achetez une PS5 un jour, bah, vous n'auriez pas moyen de faire d'upgrade de la version PS4 à la version PS5. Donc, si vous voulez un jour une version PS5, prenez une version genre méga deluxe à 20 euros de plus, parce qu'elle inclut les deux. Alors, évidemment, Twitter a beaucoup ri et un peu ri jaune, pour deux raisons. D'une part, bah, c'est quand même un move particulièrement maladroit, surtout quand on sait que Microsoft, de son côté, met beaucoup en avant son... comment ça s'appelle déjà ? J'ai déjà oublié le...
Les manettes.
Non, mais...
Non, ah, pardon. Je sais pas.
Le Smart
c'est
Delivery...
Game Pass ou manette, c'est souvent la réponse. Hein.
Le Smart Delivery non, qui vous donne la version du
c'est
jeu.
C'est pas Smart Delivery, c'est vrai qu'ils ont un truc
ça. C'est Smart Delivery, c'est ça. C'est comme ça que
ça
s'appelle.
Si, c'est ça, le truc qui permet... C'est pas All Access ? Ah non, All Access, c'est le truc qui permet de l'acheter.
Ouais, c'est ça. Ouais. Le Smart Delivery, c'est que vous achetez un jeu et il marche sur toutes vos machines et il est téléchargé dans la bonne version pour la machine que vous avez, donc Xbox One, Xbox Series X, etc. Et... Et Sony, et en plus de ça, le fait que on ne pouvait pas en acheter si on était coincé sur la version PS4, c'était un petit peu ridicule. Et ils avaient promis à l'annonce de Horizon que tous les jeux entre guillemets de la fenêtre de lancement seraient pas offerts, mais vous l'achetiez une fois sur PS4 et PS5. Bref, quelques jours après, c'est Jim Ryan qui a pris la parole pour dire si, ok, d'accord, on a fait une connerie, vous aurez la version PS5 si vous achetez la version PS4 et en plus à l'avenir tous nos jeux first party seront upgradables de la version PS4 à la version PS5 pour 10 euros ou $10, c'est-à-dire la différence de prix entre les deux versions. Ce qui nous met dans... Alors c'est bien, c'est ce qu'ils auraient dû faire dès le début, mais ça nous met dans une position un petit peu étrange où en fait acheter la version PS4 coûte 10 euros de moins que la version PS5, mais elle inclut la version PS5. Donc je sais pas très bien ce qu'ils vont faire là. Donc, il vaut mieux aller sur le store en ligne et acheter la... Enfin, ça sort en février, hein, donc on a encore le temps. Mais du coup, il vaudra mieux acheter la version PS4 pour 10 euros de moins. Je ne comprends pas comment ça va se passer.
Ouais,
quoi.
Ils vont corriger ça, c'est pas possible.
Mais comment veux-tu qu'ils corrigent ? Ils vont baisser le prix de la version PS5 ?
Non, mais en fait, c'est comme toujours. C'est-à-dire que... Ce genre de loophole, au final, il y a nous sur la microsphère Twitter qui sommes au courant et la plupart des gens, ils ne vont même pas percuter.
Peut-être.
Enfin, c'est comme ça souvent que ça se passe. Hein.
C'est possible. Enfin, ça, à mon avis, ça a le genre de potentiel de devenir une sorte d'info virale que les gens... Tu sais, c'est l'astuce.
Par contre, je t'avoue que je ne comprends pas le move de comment ils sont passés de « on promet un truc » à « finalement, on oublie qu'on l'avait promis ». Enfin, me dis qu'il y a eu quand même il y a dû quand même avoir une espèce de micmac en interne assez étrange pour qu'ils en arrivent à ça, parce que bon,
c'est très possible.
Après, les passages cross-gen, c'est toujours, enfin, à l'époque, passage Play 3, Play 4, il y avait des micmacs comme ça. Je me souviens qu'il y en avait plein régulièrement.
Ouais,
c'était le moment où je venais d'arriver chez GK et il y avait plein de news régulièrement sur ça, quoi.
Quoi d'autre ? Les prochains jeux du Nintendo Online, comment ils s'appellent déjà ? Nintendo Switch Online, ça risque d'être les jeux Game Boy et Game Boy Color. Moi, je ne voyais pas très bien où ils allaient aller après la NES et la SNES. En fait, les jeux Game Boy, ça serait assez sympa. Hein. Il y aurait des trucs marrants à voir. Même si, bon, je vous avoue, je n'ai pas le temps de jouer déjà aux jeux NES et SNES, mais je les ai lancés. J'en ai lancé 2-3 un petit peu.
Patrick, bon, il y a 5 minutes, temps... je vais jouer à Tales of Arise. Patrick, dans 5 minutes, je vais refaire tous les Pokémon sur Game Boy.
Bah, il faut avouer que Pokémon, si c'est sur la télé, ça va être quand même pas très très beau. Hein, un Pokémon Game Boy sur une télé un petit peu plus grande. Bon, mais bref, ça risque d'arriver. C'est une rumeur, mais ça semblerait cohérent. On a aussi un remaster d'Alan Wake qui arrive cet automne dans quelques semaines à peine sur PC, Xbox et pour la première fois sur PlayStation. Quand on dit PC, c'est sur Epic Game Store uniquement. Et alors que je vous retrouve la date, il y avait des rumeurs hein, depuis un moment, mais là, ça a été confirmé pour... Ben, je ne retrouve plus la date, c'est un moment en octobre.
Pas octobre, j'ai un doute aussi.
Je
me l'étais noté, désolé.
Je ne retrouve plus la date dans l'article de Polygon que je regarde. Je crois que c'est octobre ou novembre. Bref, ça arrive. Je voulais aussi mentionner la date de Soul Cresta, qui arrivera le 9 décembre. Et pour ceux qui se souviennent de Moon Cresta et de Terra Cresta avec émotion, ben, forcément, ça vous parlera. Les autres, vous en foutez. C'est un shoot 'em up très ancien. Mais du coup, le fait qu'il y ait une suite maintenant à ces jeux-là, c'est quelque chose de très particulier pour moi, même si bon, je les avais achetés quand j'en avais parlé il y a quelques temps. Quelqu'un m'avait dit « Ah, mais il est dispo sur Switch, tu peux l'acheter ». Je les ai achetés, évidemment, c'était très 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 difficile, donc c'était pas pour moi, mais c'est un petit peu nostalgique, on va dire. Quoi d'autre dans les news rapides ? Call of Duty, Black Ops Cold War et Warzone vont avoir une skin Judge Dredd, qui est un event.
Tout de suite, passons une heure sur cette information cruciale.
Non, je sais pas, Judge Dredd, c'est quelque chose de comment dire, culturellement particulier, et c'est surtout pour dire, encore une fois, que ça soit Fortnite ou Call of Duty, c'est devenu des centres de, comment dire, de promotion et de cross-promotion qui sont, alors je ne sais pas pourquoi Judge Dredd, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'actualité par ailleurs.
La dernière fois, j'avais dit ça sur Robocop et je me suis fait...
Mais Robocop, c'est pas une skin, c'est un jeu qui est développé. Bon. Là, il profite de la notoriété. C'est ce qui se passe.
Un jeu Robocop.
Fortnite.
Ah ouais.
Ah ouais, ouais. Oui, il a pas l'air très beau en plus. Donc, mais bref, bon.
La surprise est totale.
On s'en fout clairement. Ouais,
moi, je sais pourquoi Judge Dredd, c'est parce que tous les trucs cool, ils sont dans Fortnite en fait. Enfin, tu vois, tous les trucs bankable, Fortnite a déjà mis la main dessus, quoi.
Et ils ont eu
avec leur délire de métaverse.
Dans Warzone, ils ont eu, c'était Rambo et Bruce Willis dans Piège de cristal, John McClane.
Ah oui.
McClane.
Donc c'est quand même pas rien ça. Bon,
c'est vraiment pour parler aux vieux cons comme nous, quoi.
On est d'accord que Call of Duty, c'est des jeux à la première personne, hein.
Oui, mais
je sais pas, je pose la question au cas où c'était.
Mais tes coéquipiers te voient, Benoît, c'est le.
Ah,
le
bah oui, alors c'est très important.
Tu vois, de la. Tu te fais. Oui, c'est ça. Bon, d'accord.
C'est comme dans Skyrim, quand tu passes 4 heures à faire la tête de ton elfe et à la fin tu mets un casque, quoi.
Exactement, exactement. tiens, il y a Big Brain Academy qui a été annoncé sur Switch, et on va pas forcément en parler 2 heures, mais j'aimerais vous encourager à aller voir la promo qui dure 2 minutes et demie, le trailer de Big Brain Academy. C'est fascinant la manière dont il parle aux gens normaux. C'est vraiment une démonstration de regardez ce que vous pouvez faire avec ce jeu, hyper didactique. Je trouve qu'au niveau marketing, c'est vraiment, vraiment intéressant cette vidéo. Ça montre de manière hyper douce, hyper gentille, comment on peut jouer à plusieurs, comment il y a des compétitions. Et c'est très, très loin de ce qu'on voit dans les jeux vidéo traditionnels et les promos de jeux vidéo traditionnels. Alors clairement, c'est un jeu qui est destiné en plus des joueurs peut-être traditionnels à un public moins joueur habituellement, et ça donne je peux tout à fait imaginer que des gens qui sont pas joueurs à la base se disent ah mais ça peut, ou pas très joueurs, ou peut-être qui jouent sur mobile, se disent ah ça a l'air super sympa, ils montrent des familles, des adultes, etc. J'ai trouvé ça vraiment intéressant au niveau communication.
Ben, c'est une série qui est sortie sur DS au départ, donc c'était l'époque où ils étaient à 800% dans le marketing pour monsieur et madame tout le monde, ce qu'on a appelé les casuals en fait, hein.
Donc ça, ils savent faire, hein. Ils sont très très forts là-dessus. Hein. Ça me choque pas qu'ils y arrivent. Hein. Moi, tu sais, j'avais vu leur jeu là, pour créer des jeux vidéo, là, leur garage, là, je sais plus comment ça s'appelait. Et c'est pareil, je trouvais les présentations vidéo incroyablement bien faites. Quoi. Ils sont, ouais. C'est des super communicants, hein, Nintendo, de toute façon.
Clairement. Ça change quoi par rapport à un Dr. Kawashima?
C'est le même genre.
C'est plus ludique.
C'est le même okay. genre, c'est peut-être un petit peu plus... disons que là, c'est un petit peu plus moderne. C'est peut-être un peu plus simple. J'ai l'impression que le but n'est pas... comment dire? C'est des questions qui vont progresser en difficulté, mais il y a des histoires de challenge. C'est plus ludique, je trouve. Il y a des histoires de okay. challenge entre différentes personnes en asynchrone. Tu peux jouer à plusieurs. C'est une
version... C'est vrai, Kawashima, c'était « Quel âge a ton cerveau ?»
Ouais, c'est presque médical.
C'était un peu anxiogène, ouais, ouais. quoi, à la limite. Ouais, ah, merde,
vous avez 800 ans.
Ça,
ah, bah, merci. Boomer. Tu te fais insulter direct en plein milieu.
Donc voilà pour Big Brain Academy. Et quoi d'autre? Je voulais mentionner aussi une interview intéressante de l'ancien boss de Sony, de PlayStation, Sean Layden, qui s'est lancé dans une nouvelle initiative. Je ne me souviens même plus du nom de sa nouvelle boîte, mais qui... a pour but d'amener le jeu vidéo à plus de monde, à plus de gens, ce qui est plutôt louable. Mais il dit aussi à quel point les budgets des jeux qui doublent à chaque génération vont exploser pour cette génération-ci. Il prédit des jeux à 200 millions de dollars de budget, ce qui semble en ligne avec ce qui s'est passé par le passé, donc ce n'est pas complètement déconnant. Sur les générations précédentes, les gros AAA étaient à une centaine de millions de budget. Là où je suis un peu, je trouve que c'est une vision un petit peu partielle du marché, parce que vraiment on l'a vu ces dernières années, il y a aussi un dynamisme et une vivacité dans le domaine des indés, et pas que des double A et de tout type de jeux. Donc c'est sûr que les triple A, ça risque effectivement de devenir des machines de guerre encore plus grosses que ça ne l'est aujourd'hui, mais dans la manière dont il en parle, on a un peu l'impression qu'il dit c'est le jeu vidéo, c'est ça et c'est pas gérable. Et bon, au-delà des questions de problématiques dans l'industrie dont on parle souvent, je trouve que c'est une vision partielle, parce que il y a aussi beaucoup de jeux qui sont à des budgets beaucoup plus tenables, avec des équipes beaucoup plus restreintes, qui sont d'une inventivité et d'un agrément de jeu qui sont tout à fait comparables à celui des AAA. Donc je voulais le mentionner comme ça en passant.
Hein, en fait, il se place du point de vue du constructeur, c'est-à-dire que lui, je pense qu'il adopte l'angle de comment on fait pour survivre face à un Microsoft qui a un Game Pass, tu vois. Et c'est vrai qu'il a participé, hein, à élaborer la stratégie actuelle de PlayStation autour des franchises. Du coup, je pense qu'il se dit bah oui, si on veut faire des AAA dignes de ce nom qui se vendent par palette de millions, il faut entre la concurrence qui dit pour 10 balles par mois, vous pouvez jouer à tous nos jeux. Et pour convaincre les gens de ne pas aller chez eux et de rester, il faut vendre des jeux à 80 balles. Mais du coup, il faut qu'ils aient un impact forcément graphique, parce que c'est ça qui touche le plus de gens instantané, quoi. Il faut que tu te prennes une claque comme quand tu lances un Ratchet ou quand on a vu Horizon la première fois, etc. Ouais. Quoi.
Et j'irais même jusqu'à dire que ce soit Horizon aujourd'hui ou Ratchet, là c'est que le début, parce qu'on est sur des jeux qui sont bon, pour Ratchet c'est pas cross-gen, mais on est en début de génération. Quand l'Unreal Engine 5 va arriver et qu'on va avoir vraiment des requirements, des nécessité graphique, parce que quand tu augmentes la qualité graphique des graphismes, ça ajoute du travail à tous les niveaux et ça complexifie tout. Et donc c'est vrai, je pense que t'as raison de le souligner, pour ce type de jeu là ça risque d'être inévitable, quoi.
Le revers de la médaille, c'est que ça reste une fuite en avant et on sait qu'à un moment donné on n'y arrivera pas, quoi. C'est-à-dire que là, pour sortir un The Last of Us 2, il faut déjà fouetter les gens et suer sang et eau presque littéralement pour pouvoir réussir à aller au bout. Non, mais enfin, je dis ça très sérieusement, hein. C'est-à-dire que je voudrais pas
souvent,
bosser. C'est vraiment c'est des machines, quoi. Donc pour parvenir à un résultat qui, quand tu vois déjà la qualité dans The Last of Us 2 en termes graphiques, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin? Je sais pas, tu vois. Donc moi, ça me gêne toujours cette histoire de fuite en avant, parce que est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller aussi loin? Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment très sérieux. Puis si ça donne d'autres catastrophes comme Cyberpunk ou quoi, des jeux beaucoup trop ambitieux et avec des gens qui sont pas capables de gérer des projets aussi gros, je sais pas.
Je crois que sur vas-y, Eska,
surtout
pardon.
Quand tu vois le à l'inverse le succès monumental que peuvent avoir des jeux avec des tout petits moyens, quoi.
C'est sûr.
Ouais.
Stardew Valley, je le mentionne comme ça parce que c'est l'avant-dernière news. Stardew Valley a dépassé 15 millions de ventes. Et c'est un jeu qui a été fait par une personne. Donc, bon, en même temps.
Bon, après, ça reste des exceptions, on est d'accord. Hein.
Oui, bien sûr.
Vu la quantité de jeux indés qui sortent, dans les faits, la plupart se cassent la gueule.
C'est sûr, mais tu sais, Cyberpunk, c'est ce que je voulais dire aussi quand tu le mentionnais, un jeu qui s'est autant cassé la gueule, c'est aussi une exception. Alors peut-être que c'était le premier d'une série, mais je crois qu'il y a effectivement une particularité pour CD Projekt Red qui a vraiment eu les yeux plus gros que le ventre avec Cyberpunk, qui se retrouve pas de la même manière dans les autres AAA. Peut-être que ça viendra.
Dans mon style, c'était vraiment le premier too big to fail, tu vois, parce que à ce niveau-là, c'était quand même particulier. On pourrait citer Anthem, on pourrait citer, je vois Kassim qui parle de Halo aussi. Donc, tu vois, mais on n'en est pas encore là, justement. Halo, il n'est pas sorti, donc ils ont le bénéfice du doute jusqu'au moment où ils sortent. Je sais pas, c'est vrai que j'espère me tromper, mais j'ai quand même le sentiment que ce qui s'est passé avec Cyberpunk, c'était peut-être quand même le début d'une tendance. Parce que comme tu l'as dit, à partir du moment où tu hausses le niveau de qualité visuelle, bah, ça rajoute d'autant de travail, et c'est pas linéaire, c'est presque exponentiel en fait. Juste rajouter du travail en plus pour une cinématique, ça veut dire qu'il y a tous les autres domaines, départements de production qui ont un travail de fou par derrière. Donc c'est compliqué d'être enthousiaste pour cette fuite en avant, sachant que derrière, il suffit de regarder ce qui se passe, tu vois, dans la nature pour se dire est-ce que c'est très malin de vouloir chercher ça à tout prix. J'ai du mal, quoi.
Moi, je suis optimiste, donc je veux y croire. Je veux croire que ça puisse être possible et qu'on puisse, dans le même temps, essayer de gérer avec cette industrie qui grandit, de mieux gérer justement le travail de ces projets titanesques, comme ça peut se faire dans des choses comme le cinéma, par exemple, qui est un petit peu plus âgé et où ça se passe généralement pas trop mal et où c'est très très réglementé. Je parle du cinéma en particulier à Hollywood. Peut-être qu'on ira dans le bon sens, mais Sean Layden lui-même, il a quitté Sony de manière un petit peu surprenante et inattendue, et il explique qu'il est parti parce qu'il avait juste fait un burn-out, et lui il est même pas dans le développement spécifique, mais il avait fait un burn-out, il en pouvait plus, quoi. Donc écoutez, on verra. Et puis une dernière chose pour dire que le mouvement Day of Twitch, qui visait à amener de la visibilité sur la lenteur de Twitch à répondre au problème des hate raids, et qui demandait aux streamers d'arrêter de streamer pendant une journée, on a beaucoup dit est-ce que ça va avoir un impact ou pas, est-ce qu'on s'en fout, je sais pas quoi, au-delà de la question de la visibilité médiatique que ça a amené au problème, et je crois que ça a fonctionné de ce point de vue. La firme d'analyse GameSight a estimé qu'il y avait eu une chute de viewership de 5 à 15%. Alors, ils n'ont pas les chiffres très précis, mais de 5 à 15% sur la journée. Alors ensuite, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que Twitch est affecté ou s'en préoccupe Moi, je crois que c'est surtout le bad buzz médiatique qui va les affecter, si quelque chose les affecte, que les 5 ou 15%. Mais bon, mine de rien, sur une journée, 5 ou 15%, sur une journée, c'est peut-être négligeable, mais c'est en soi un chiffre qui est un petit impact quand même. Donc voilà, après, on ne sait pas quelle efficacité ça aura, mais on sait que ça aura eu un impact de 5 à 15%. Ça nous donne une échelle pour estimer ce genre de choses à l'avenir, je pense.
C'est qu'un début, c'est-à-dire que ce qui leur fait peur, de toute façon, c'est qu'un jour ou l'autre, les streamers, les streameuses, ils se réveillent et qu'ils créent des conventions collectives, des syndicats, etc. C'est-à-dire c'est des Américains, il n'y a rien qui leur fait plus peur que des idées un peu socialistes, quoi. Donc là, pour l'instant, c'est des initiatives très individuelles avec un peu de buzz sur Twitter. C'est pas du tout organisé, en fait. Donc je serais très curieux de voir le poids que ça pourrait avoir en étant justement un peu organisé, un peu pensé, avec des gens qui prévoient, tu vois, sur plusieurs jours de vraiment maintenir une espèce de blackout. Parce que là ils ont communiqué ce matin sur les méthodes qu'ils mettent en place pour protéger les gens. Ils ont dit oui, mais on peut pas vous le dire parce que sinon les trolls, ils vont savoir ce qu'on fait. Sous-entendu, on fait rien, mais c'est pas grave. De toute façon, on n'a jamais rien fait jusqu'à présent, alors pourquoi le faire maintenant? Et voilà, mais c'est vrai que moi, cette initiative, je la trouvais très cool, mais c'était, encore une fois, pas un truc organisé, pas un truc, tu vois, ça s'est fait un peu spontanément. Donc c'était déjà, je trouve que l'impact, il est énorme par rapport à ça, en fait.
Moi, je crois sincèrement que le truc qui leur fait le plus peur, c'est les streamers qui partent sur YouTube. C'est ça qui va leur faire faire des choses plus que... plus même que... Mais bon.
Voilà, moi, je les fais trembler hein, avec mes 1000 viewers. Ils ont plus, hein,
écoute, non, je dis c'est pas ça pour toi. Je disais ça pour Dr. Lupo et oui. Mais tu sais, mine de rien, c'est une dynamique qui peut installer quelque chose. Et puis, le bad buzz médiatique, mine de rien, ça, je pense que ça les fait un petit peu bouger quand même, quoi. Bah écoutez, je crois qu'on arrive au bout du coup de cet épisode et de toutes les news qu'on voulait couvrir. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. On va enchaîner sur l'after show pour ceux qui ont le flux privé, qui sont patriotes. Donc vous pouvez rester avec nous si vous êtes dans le flux privé, mais sinon on va quand même prendre le temps de dire au revoir à Benoît et à Escarina. Esca, est-ce que tu pourrais nous dire où on te trouve sur internet quand tu n'es pas dans le rendez-vous jeu?
Bien sûr. Alors, quand je ne suis pas dans le rendez-vous de jeu, je suis sur Twitter, @escarina_. Je vous parlerai avec grand plaisir de mes tripes RPG de vieilles filles. Enfin, de vieilles filles, faut faire attention quand on dit ça, mais on a parlé un petit peu Baldur's Gate, Arcanum, ce genre de choses dans le chat. Donc, on peut continuer sur Twitter. Et sinon, chez les copains de Super Gamerside, on a un épisode là qui est bientôt prévu. Donc, ça va être notre entrée.
La rentrée de Super Gamerside bientôt. Merci Escarina. Et toi Benoît, où es-tu sur internet, dis-moi. Maintenant que t'es plus du tout sur Twitch.
C'est un peu plus facile. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus facile. Je suis plus sur Twitch, ça y est, c'est terminé. Donc je stream maintenant, je suis sur YouTube, c'est Exerve. Twitter, c'est @exerve85. Et du coup, en podcast, c'est aussi la rentrée, nous, vendredi. Donc fin du game hein, qui reprend tous les 15 jours. On revient en 1h30 sur un jeu qui est sorti il y a au moins 6 mois, 1 an, et on spoil, on essaye d'en faire un peu une analyse critique à posteriori.
Et tu peux nous dire de quel jeu il s'agit ce vendredi ou c'est encore secret?
Ouais, c'est Deus Ex, le premier.
Très bien.
On revient, c'était un jeu qui avait été choisi par les gens qui nous suivent sur Patreon, du coup on va parler du tout premier Deus Ex.
Premier Deus Ex arrive vendredi, super. Du coup, tu en mentionnes Patreon. Vous savez que si vous êtes déjà patriote du rendez-vous jeu, vous pouvez aussi peut-être, puisque vous avez déjà un compte, vous avez déjà votre moyen de paiement qui est enregistré, tout ça, aller regarder du côté soit de Fin du Game, qui est un excellent podcast que je vous recommande, soit du côté de la nouvelle page Patreon d'Exerve, qui a également fait la transition suite au problème qu'il y a eu sur Tipeee. Vous pouvez aller soutenir l'un de ces deux créateurs de talent. Ou alors, si vous n'êtes pas encore patriote, vous pouvez vous créer un petit compte sur Patreon et venir soutenir, par exemple, le rendez-vous jeu, en plus des deux autres, ou choisissez l'un des trois ou des nombreux créateurs qui sont sur Patreon et qui ont besoin de votre soutien pour vous offrir un type de contenu qui est un petit peu différent de ce qu'on trouve dans les médias qui sont financés par d'autres moyens uniquement. Donc, patreon.com/rdvjeu pour soutenir cette émission. Et puis, il y a Exerve, Fin du Game et d'autres qui vous attendent également. Moi, je trouve ça... ça a des avantages et des inconvénients, la consolidation sur une plateforme. En l'occurrence, l'un des avantages, mine de rien, c'est que c'est beaucoup plus facile, quand on a déjà un compte, d'aller voir du côté des petits camarades. Donc, moi, j'aime bien Patreon et je suis très content de ce que j'ai fait avec eux depuis quelques années. C'est tout. On vous fait des grosses bises. Notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais. Et on se retrouve donc dans quelques jours pour le rendez-vous tech. Et dans une semaine pour le rendez-vous jeu. Ciao à tous!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.